Salut à tous et bienvenue dans Tech Café. Tech Café, c'est un podcast qui vous parle de tech, de ses usages en hebdomadaire. Je suis Guillaume Vendée, je suis évidemment ravi de vous retrouver une fois de plus pour échanger sur les petites news autour de la tech. C'est l'épisode 84, pas encore 1984, mais ça ne saurait tarder. Et je suis accompagné pour cet épisode de Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume.
Salut à tous.
Et de Pierre-Olivier. Salut Pierre-Olivier.
Salut. Ça va?
Très bien, merci Pierre-Olivier de te rejoindre à nous une nouvelle fois, Pierre-Olivier Liebmann. On a un épisode sur lequel l'idée du numéro 84 n'a pas été sans évoquer le roman 1984, évidemment. Alors, qu'en plus, je dois confesser tout de suite pour toutes les références plus ou moins hasardeuses que vous pourriez être amené à faire durant cet épisode, que je l'ai commencé il y a quelques jours. Je voulais le lire en entier. J'ai été débordé puisque j'avais jamais lu ce livre. Je trouve que on se rend très très vite compte de l'atmosphère qui est bien connue, hein, je pense, même quand on n'a pas lu le bouquin dès le début. Donc Guillaume, tu nous as ponctué cet épisode de quelques citations et quelques extraits. Est-ce que tu veux les lire au fur et à mesure, ou est-ce que tu veux qu'on les laisse en découverte pour ceux qui viendront lire les notes de l'émission?
Bon, on peut les laisser en découverte, comme ça incite à venir sur le site et à laisser des commentaires.
Parfait, ben justement, c'est une transition toute trouvée. Si jamais vous voulez réagir, c'est sur techcafé.fr. Vous pouvez déposer un commentaire en dessous de l'article de chaque épisode. Et puis, vous pouvez bien entendu interagir avec nous sur les réseaux sociaux. Si vous l'avez pas déjà fait et si vous découvrez l'émission, n'hésitez pas à ajouter le podcast à votre lecteur habituel, ce qui vous permettra bien évidemment de recevoir automatiquement les futures émissions. Et puis, je vous retoucherai un petit mot tout à l'heure du financement participatif qui est disponible pour ceux qui le souhaitent pour Tech Café. On attaque avec une première partie qui ressemble à d'autres chroniques dans le ton, dans l'intention et dans le panorama tel qu'on a pu déjà en faire, tel que tu as déjà pu en préparer, Guillaume. Là, on en est carrément sur des grands principes, puisque là, Internet s'excuse. C'est plus seulement Mark Zuckerberg, mais tout Internet s'excuse, Guillaume.
Ben oui, tu sais, on avait déjà évoqué le mea culpa de certains professionnels du web, dont certains avaient même contribué à créer les technologies qu'on utilise tous aujourd'hui et dont l'abus, d'ailleurs, peut devenir problématique. Et il y a donc un long article qui est paru dans le New York Mag, qui était justement intitulé de manière assez drôle, c'est « L'Internet s'excuse ». Et ça rassemble les témoignages de 13 personnalités de l'Internet qui sont connues ou moins connues, hein, parmi lesquelles il y a Tristan Harris, qui est ex-design éthique chez Google, dont on a déjà parlé ici, je sais pas si tu t'en souviens. Mais il avait fait un très long article aussi sur justement sur l'éthique du design des logiciels.
On avait parlé de notifications, des pull to refresh,
exactement,
etc.
Exactement. Donc il y a aussi Hélène Pao, qui est ex CEO de Reddit. Il y a Ethan Zuckerman, qui est inventeur de la publicité pop-up, loué soit-il. Il y a Kant Dourouk, un cadre de Uber, Richard Stallman, et puis bon, il y en a d'autres aussi. Et donc ils racontent tous beaucoup mieux que ce que j'avais très largement résumé la dernière fois que j'étais sur ce plateau, c'est-à-dire la manière dont Internet est parti en vrille, c'est-à-dire son historique, hein, des tout débuts un petit peu hippie jusqu'à aujourd'hui. Et ils le font en 15 étapes, donc l'origine d'Internet, sa monétisation et jusqu'aux abus dont on parle en long en large ici même, quoi. Et d'ailleurs, l'étape 12 concerne le business model dominant et le besoin d'une alternative, ainsi que le besoin de régulation, c'est-à-dire c'est l'étape 13. Et certains sont vraiment très amers, comme Dan McComas, qui est ancien chef de produit chez Reddit, et lui, il annonce carrément, je cite, que je pense sincèrement que le temps que j'ai passé chez Reddit a contribué à rendre le monde pire qu'il n'était. Il était dans une position qui était intermédiaire pourtant, hein, il pouvait assister à toutes les réunions et voir les décisions se prendre, mais il pouvait pas influer, il avait assez peu de pouvoir, il pouvait pas influer sur quoi que ce soit, en fait. Et en la matière, d'ailleurs, justement, il se prenait de toute façon assez peu de décisions. Il semblerait que c'était même le cœur du problème, puisque le sujet ultra majoritaire, raconte-t-il, c'était la croissance. Tu vois, c'est style 40 millions d'utilisateurs en plus depuis la dernière réunion, bah c'est pas assez, parce que Internet lui-même a grossi plus que ça. Donc d'après lui, comme à peu près toutes les autres plateformes, hein, que ce soit Twitter, Discord ou d'autres, le mantra, c'est de grossir le plus possible, le plus vite possible, même sans savoir d'ailleurs précisément comment ça va rapporter de l'argent. La croyance, c'est que plus la base d'utilisateurs est énorme, plus les dollars pleuvront de trucs. Du coup, bah, la problématique de la monétisation, ou même les problématiques de modération, pardon, ou même les questions de fond sur l'impact que le service peut avoir, c'est un petit peu secondaire, au mieux. Et il raconte finalement comment la modération se fait sur Reddit. En fait, c'est très simple, c'est une boucle. La première étape, c'est connard détecté. Qu'est-ce qu'on fait? On vire. Alors là, justement, évidemment, on met toujours l'argument liberté d'expression. donc Balek. Donc après, scandale dans les médias, ça ressort, ça fait bordel. Donc on s'indigne, et ensuite on vire tout, et après on répète. Bon. Après, d'après ce qu'il dit, il y aurait que 6 à 10 community managers pour tout le réseau. Et le réseau Reddit, c'est quand même 250 millions de personnes.
Ouais, j'ai du mal à y croire.
Donc c'est pas énorme, quoi, tu vois. Donc bon, on peut pas dire que ce soit une priorité, et pourtant c'est vrai c'est une importance capitale. Et d'ailleurs, l'actualité nous le rappelle assez violemment avec l'attaque à la fourgonnette de Toronto, parce qu'elle a quand même été perpétrée par un dingo qui se réclame de la communauté des incels. Alors je sais pas si vous connaissiez ce mouvement, moi ça m'a
mis sur le cul. Les incels?
Ouais.
Non, je connaissais pas.
Écoute, c'est un mouvement de mecs frustré par les femmes, hein, apparemment. Et je suis tombé de ma chaise, je te dis. Quand j'ai vu qu'un groupe de misogynes sur Internet pouvait s'entremonter le bourrichon jusqu'à perpétrer des attentats terroristes, comme Daesh, ça m'a complètement flingué, quoi. Et d'ailleurs, le subreddit Incel a été fermé, parce qu'il y en avait un, bien sûr, il a été fermé en 2017 parce qu'il proposait des tutos pour violer comme il faut. C'est complètement hallucinant, quoi. Et le pire, c'est que ça existe toujours. Il y a un forum incel.me qui, lui, modère strictement que dalle, et donc, voilà, ça continue tranquille. Bon, c'est assez fou, quoi. Et bon, c'est un petit peu ça qui a poussé Dan et Ellen Pao à partir. Bon, enfin, dans le cas de cette dernière, c'est peut-être aussi les torrents de merde sexistes qu'elle s'est reçue d'une partie de la communauté. Mais bon, dans l'ensemble, ils sont pas super optimistes dans leur conclusion, parce qu'il y a les étapes 14 et 15. Ils disent que malgré les événements récents, il se pourrait bien qu'absolument rien ne change fondamentalement. Il faudra peut-être changer de politique en profondeur et donc sans doute aussi changer de gens. Il semble que, tu sais, c'est un petit peu comme quand on a certaines personnes au pouvoir, quoi, tu vois, un changement de fort de politique peut arriver qu'avec un renouvellement des gens, quoi. Mais bon, on verra, hein, peut-être, il faut rester optimiste, hein, savoir. Peut-être qu'un jour Tim Cook laissera son neveu aller sur un réseau social de nouvelle manière. Pauvre enfant, tu te rends compte qu'il peut même pas aller pécho sur Snapchat?
Oh, le pauvre. Mais c'est bien, il vaut mieux poser des garde-fous. C'est un dispositif complet, hein, avec plusieurs interviews. Ça, c'est la première, hein, avec Dan, donc derrière Reddit, qui a été diffusé. Il va y en avoir d'autres. C'est tout un recueil de témoignages qui vont en ce sens. Pierre-Olivier, est-ce que on peut en vouloir à Reddit d'être allé faire la course aux utilisateurs? Après tout, ça reste quand même le nerf de la guerre. Et puis on se dit que pour un réseau social, le fait d'avoir le plus d'interlocuteurs et de participants possibles, bah, c'est tout ce qui fait la richesse. Est-ce que du coup, cette croissance, elle a pas été chaotique et démesurée et du coup mise devant toutes les autres problématiques qui auraient dû être mises peut-être en priorité?
Bah, je pense qu'il suffit de fouiller dans le passé de l'entreprise, parce que si je me trompe pas, c'est une des boîtes qui a accueilli le jeune Aaron Schwartz qui s'était suicidé face à la pression qu'il recevait. Aaron Schwartz, donc c'était quelqu'un qui s'était investi de la mission de sauver un petit peu Internet de ses côtés pervers. Et justement, il était très militant, très activiste sur l'échange libre de la culture, mais dans le respect des personnes, finalement. Donc assez dans l'air du temps, mais il est mort avant que qu'on se parle des sujets qu'on évoque aujourd'hui. Donc c'est sûr que c'est un petit peu
Excuse-moi Pierre-Olivier, il y a beaucoup de souffle là dans ton micro et ça gêne l'audition de ce que tu dis. Du coup, je sais pas si t'as...
Ça va être un enregistrement assez chaotique.
Alors on va redonner un peu les conditions. Tu te retrouves sur les toits de ton immeuble pour ne pas souffrir des bruits des travaux qui ont lieu dans tes locaux. Et du coup, c'est pour le bien-être de notre audition. Et du coup, tu te retrouves face à un souffle. Je sais pas si t'as la possibilité de faire, je sais pas, barrière avec quelque chose dans le sens du vent.
Je vais essayer de me décaler à un autre endroit. Et le problème, c'est comme il flotte.
Ah oui, en plus il pleut. Les conditions d'enregistrement sont difficiles. On se croirait sur un reportage de BFM TV.
C'est exactement ça. Les conditions sont totalement optimales. Alors attends, si je m'éloigne un petit peu, je pense que ça va être un peu mieux. Mon propos, en tout cas, c'était que dans l'historique de Reddit, on peut remonter leur époque où ils étaient chez Y Combinator, époque à laquelle ils ont été rejoints par Aaron Schwartz, je ne sais pas si le nom... vous sonne une cloche, comme on dit chez nous. Mais Aaron Schwartz, c'est ce jeune entrepreneur qui s'est suicidé il y a quelques années face à la pression qu'il a subie de la part d'entreprises, mais aussi du FBI, alors que il s'était justement investi d'une mission assez militante de changer un petit peu le web et pour que ce soit un endroit où on puisse transmettre la culture, l'information, et sans que ça devienne un cauchemar non plus. Clairement, il fait partie des gens qui ont quitté Reddit très très vite lorsque la compagnie a été rachetée. Donc c'est pas tout à fait un phénomène nouveau, hein, cette recherche de croissance au détriment d'autres choses.
Ouais, en même temps, c'est peut-être aussi le reflet de toutes ces plateformes. On parle de, évidemment, en ce moment beaucoup de Facebook. Bon, il y en a une dans laquelle on peut pas exactement mettre cette critique, c'est des plateformes comme Twitter par exemple, mais on voit que c'est l'ensemble des plateformes qui se rendent compte avec un peu de douleur et par la force des choses que bah du coup la croissance à tout prix, ça a été quelque chose de compréhensible, de tolérable par certains aspects, mais qui commence à créer pas mal de problèmes. Et du coup, peut-être qu'une liberté de parole totale avec une croissance permanente, c'est peut-être pas quelque chose d'évidemment idéal. Ça croule sous le sens. Alors justement, on parle de liberté de parole. Est-ce que tu pourrais nous décrire, Guillaume, ce que c'est que la liberté de parole totale qu'on pourrait souhaiter avoir aujourd'hui, un environnement parfait là-dessus?
Écoute, l'environnement parfait, en tous les cas, c'est comme ça qu'il se présente. Hein. C'est une alternative à Facebook qui se présente comme un anti-Facebook, et je parle pas de Véro, hein. D'ailleurs tu le feras la bise à Véro, n'hésite pas, je parle plutôt du réseau qui se présente donc comme l'anti-Facebook à base de blockchain, c'est Minds. Alors ce truc est censé être décentralisé, privé et totalement non-partisan, avec des gros guillemets. C'est eux qui le disent, hein. Et bon, il y a même une économie à base de tokens qu'on gagne et si on est plébiscité par les utilisateurs pour ce qu'on poste, etc. Bref, bon, ça existe et je suis allé faire un tour et je suis pas allé très loin, hein. J'ai cliqué sur channels et pour voir un petit peu les comptes qui sont mis en avant. Je me suis baladé un petit peu comme ça. Au début, bon, ça ressemble effectivement à une espèce de Tumblr et au tout début, c'est vrai qu'on remarque pas forcément de trucs bizarres. Mais au fil des posts, le malaise grandit assez rapidement. Souvent, les premiers posts, en fait, sont assez anodins, et puis rapidement, c'est la fête du slip. On a des blagues racistes, de la propagande anti-vaccin, du sexisme, du conspirationnisme. En fait, c'est un refuge pour trolls d'extrême droite. Alors, c'est sûr, ma visite en mode touriste, elle ne va pas constituer une étude super sérieuse et carrée, mais tu fais une recherche sur le tag islam, et ça amène que des posts anti-musulmans, par exemple. Tu vois, c'est même curieux, un compte qui semble être sur des illustrations de SF, que j'ai consulté d'ailleurs assez rapidement du coup, qui commence à peu près normal, et ça dérive très vite sur la propagande pro-arme et anti-libérale. Anti-libérale au sens américain, c'est-à-dire violemment antidémocrate. Bref, c'est à vomir, c'est à se taper la tête sur le clavier, et je recommande pas parce que c'est quand même fragile un clavier. Donc, soit Minds, c'est une couverture pour une usine à troll russe, ou pour Breitbart News, soit il démontre avec un panache assez malheureux que ben non, la liberté d'expression, ça va pas forcément de soi, et c'est pas forcément la réponse à tous les problèmes, quoi.
J'ai toujours tendance quand même à être gêné sur le fait qu'on puisse... alors bon, je te rejoins, c'est vrai que ça, moi aussi j'ai fait l'exercice d'aller me balader un petit peu à droite à gauche, et avant de laisser la parole à Pierre-Olivier pour nous dire s'il connaissait ou s'il a pris le temps d'aller jeter un coup d'œil, moi je suis quand même un petit peu gêné de... Et c'est facile, hein, comme raisonnement, et je voudrais pas qu'on pense que c'est ma dernière pensée sur le sujet, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais une des façons que j'ai de réfléchir, c'est il y a quand même deux choses qui s'opposent sur le web, mais peut-être même de manière générale. Il y a les outils de communication, et il y a les espaces qui sont éditorialisés. À partir de quel moment un outil de communication est éditorialisé? À partir de quel moment un outil de communication est purement un outil de communication? C'est très compliqué, évidemment, de déterminer la frontière. Juste, ce que j'ai tendance à me dire, c'est que, par exemple, le téléphone, aujourd'hui, est un outil qui est très difficilement comparable au web, mais ça reste un outil sur lequel il y a des tonnes de cochonneries qui peuvent être échangées, comme des choses très intelligentes et comme des choses très rigolotes. Enfin, en gros, il y a la variété des discussions. Mais évidemment, le téléphone, c'est du one-to-one, c'est de une personne à une personne, et finalement, bah, il peut s'y passer ce que les gens, entre guillemets, veulent, ça va pas avoir des impacts. Là, on est sur des outils où il y a évidemment la dimension primaire du web, et qui fait que on peut considérer ça comme des espaces purement de prise de parole. C'est très libertaire, hein, ce que je mets en avant comme vision des choses, mais ça pourrait être des espaces de prise de parole très libres auxquels on peut difficilement reprocher le fait de ne pas faire une éditorialisation, tu vois. En gros,
pour essayer de dire autre chose. Dans la loi française, il y a quand même des trucs.
Bien sûr.
Je veux dire, c'est interdit d'inciter à la haine raciale, à l'exclusion religieuse, au sexisme, tout ce que tu veux. Enfin, je veux dire, c'est...
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais par contre, le service, si je me trompe pas, est pas français. Et encore une fois, j'essaie de me mettre dans le prisme, je pense, encore une fois, des lois américaines qui sont beaucoup plus complexes. Enfin, en tout cas, sensiblement différentes des nôtres. Soyons clairs. Si un outil en France sort comme ça, avec cet usage-là, c'est même pas, enfin, ça me pose aucune réflexion. Là, je mets ça aussi sous le prisme du fonctionnement américain, qui est, je crois, un tout petit peu différent du nôtre. Tu vois ce que je veux dire?
C'est vrai, mais le problème, si tu veux, c'est
qui est tout à fait problématique, en soi.
Non, mais Internet, si tu veux, c'est un outil formidable pour fabriquer des communautés, tu vois. T'as les communautés de tout et c'est super, c'est génial. Le problème, c'est aussi quand il y a des frappes à dingue, normalement, les frappes à dingue, ils sont pas très très nombreux, donc quand ils restent isolés à l'extrême limite, bon, ils ont un pouvoir de nuisance qui est peut-être un peu limité, quoi. Mais quand ils vont sur Internet, ils trouvent d'autres frappes à dingue, des milliers d'autres frappes à dingue comme eux, et du coup, ils pensent qu'ils sont normaux et que c'est juste une communauté comme une autre. Et après, ils se montent le bourrichon et ça fait Toronto. Et il y a quand même un souci aussi, quoi, tu vois. Est-ce qu'on peut laisser
bien
faire
sûr. Ça Bien sûr. Alors, bah, du coup, c'est compliqué, mais j'ai tendance à penser que le problème se situe pas tant sur la plateforme que sur un contexte, entre guillemets, favorable à ce genre de débordement américain. Et encore une fois, avant, Pierre-Olivier, promis de te laisser la parole, je vous renvoie au dernier épisode de Votre Coach Web, qui est un autre podcast qui accompagne un petit peu les créateurs de contenu en ligne, que je suis à chaque diffusion. Et c'est Bertrand Soulier qui est derrière, qui nous parle du marketing de l'indignation, notamment en faisant référence aux actions qui ont eu lieu ce week-end dans les Alpes avec un groupuscule d'extrême droite. Et je trouve que il y a aussi ce phénomène-là sur ces plateformes qui sont très ouvertes, c'est-à-dire que on a tendance aussi à très très vite voir remonter, parce que c'est encore plus marquant, tout ce qui nous indigne, tout ce qui nous met en colère, tu vois. Et je pense qu'il y a aussi ce phénomène-là, et je serais curieux de savoir quelle est la proportion sur une plateforme comme ça de contenu douteux, de contenu grave et de contenu drôle, etc. Enfin, je pense que c'est pas si simple. Mais bon, soyons clairs, hein, je suis pas en train de dire que c'est un bon service. Je pense que c'est un service qui a de très très gros problèmes. Je suis juste en train d'essayer de comprendre les nuances qui amènent à l'existence de ce type de plateforme. Pierre-Olivier, tu connaissais ?
Non, je connaissais pas. J'ai découvert dans les notes de l'émission.
C'est une belle trouvaille de Guillaume.
Pour réagir, tout à fait. On se demande comment t'as trouvé ça d'ailleurs, Guillaume. Mais non, en vrai, pour ajouter un petit peu mon grain de sel au débat, je pense que à la fois les lois françaises et les lois américaines, même si elles sont assez différentes, sont quand même assez juste. Pour faire un petit topo sur la partie US, la liberté d'expression, ce que ça veut dire exactement, c'est que le gouvernement ne peut pas arrêter une personne pour avoir exprimé une opinion.
Le système judiciaire, de manière générale, quoi.
Exactement. En revanche, cette opinion-là qui a été émise, si c'est un appel à passer à l'acte, c'est-à-dire à agresser les gens, à partir du moment où ça a été professé de façon publique, il y a un préjudice et c'est attaquable en justice. Donc moi je vois pas de trucs particulièrement malsains dans les dispositions US de la liberté d'expression, même si c'est vrai qu'elle est un petit peu différente de ce qui existe en France et plus largement en Europe. Ceci dit, je pense pas que ce soit un problème américain en général. L'attaque de Toronto qui a eu lieu avant-hier et qui se dessine de plus en plus comme un attentat envers les femmes, elle a pas eu lieu aux États-Unis. Elle a pas eu lieu non plus dans la partie du Canada qui pourrait y ressembler le plus, à savoir les prairies. Elle a eu lieu en Ontario, dans une ville très civilisée, de la part de quelqu'un d'origine arménienne, je suppute avec son nom de famille, et que c'est collègue de classe décrivait comme quelqu'un d'extrêmement calme, super timide, voire même socialement embarrassant, comme on peut dire. Et ce genre de truc-là, nous, on l'a déjà eu aussi au Québec avec Alexandre Bissonnette qui est rentré dans une mosquée pour flinguer plein de gens. Il s'est radicalisé complètement en ligne. Et il a développé un sentiment islamophobe en ligne qu'il n'avait pas plus que ça avant de se renseigner sur différentes communautés et de rentrer exactement comme le process que Guillaume décrivait. Et en fait, est-ce que ça arrive pas aussi en France? La différence, c'est qu'en Europe, vous êtes un peu plus sur les dents. Il y a énormément d'attentats qui sont déjoués par les forces de renseignement et de police. Et il n'y a pas de stats là-dessus, hein, si ça se trouve. Parmi le lot d'attentats déjoués, il y en a eu plusieurs dans ce goût-là. Hein. Ce n'est pas forcément des attentats de l'État islamique ou ce genre de choses. Et je pense qu'on a un problème de gens. On n'a pas, et c'est pas un problème nouveau, c'est simplement le fait qu'aujourd'hui, on communique plus vite, on se retrouve de façon internationale et on forme des communautés exactement comme Guillaume décrivait. Et maintenant qu'on a ce genre d'outils, de technologie, et que ça a ce genre d'effet social, ben il est grand temps de passer la seconde et d'investir massivement en éducation et de faire en sorte que les gens ils fonctionnent ensemble de la même façon que bon des révolutions sociologiques. Il y en a eu plein d'autres, hein, la naissance des États-nations, l'union de différents pays, des guerres. Ce genre de choses, c'est exactement le même genre de mouvement. Puis bon, à la fin, là, quand on prend le sujet à bras-le-corps, on arrive à briser ces dynamiques-là et à faire de notre monde ce qu'il devrait être. Donc, je pense que là, c'est socialement qu'on doit prendre ce sujet à bras-le-corps.
Ouais, Guillaume, du coup, avant que tu nous dises comment tu as trouvé ce bel outil, dans quel élément de ta veille tu as trouvé ce bel outil, je pense qu'on est quand même d'accord pour dire que le problème, c'est pas tant l'outil, mais c'est plus les gens qui sont le problème. Eu égard le fait que le problème est irrésoluble facilement au niveau des gens, il faudrait, selon toi, que l'outil...
Non, mais c'est pas ça, mais l'outil, si tu veux, c'est aussi les gens qui le font, quoi. Et par exemple, on regarde de la loi française, comme la loi américaine, le forum incel.me ne devrait pas exister, quoi. Parce qu'il y a des exhortations au viol, il y a des choses qui sont pas acceptables. Donc, de ce point de vue-là, si tu veux, il faudrait agir quand même. Et même, tu vois, même au-delà de l'éducation, je suis d'accord, évidemment, hein, il y a des problèmes sociologiques de multiples ordres qu'il faudrait attaquer, ça c'est sûr, ça je dis pas le contraire. Néanmoins, aussi au niveau il faut quand même aussi modérer un petit peu les trucs, et puis voilà, apparemment la loi est pas complètement appliquée, pas assez appliquée, quoi, tout simplement, j'ai l'impression.
Ouais, c'est vrai, ça me marque ce que tu dis, que je garde pas souvent assez à l'esprit. Je parle toujours de mes histoires d'outils dont les usages peuvent être détournés par les bonnes et les mauvaises intentions, mais j'aime bien le fait que tu soulignes que les outils ont été quand même créés par des hommes, et c'est important. Je le perds peut-être aussi assez régulièrement de vue. On enchaîne du coup, quand on est dans les sujets un peu polémiques, on enchaîne avec Facebook, puisque quand on veut parler un peu de polémique en ce moment, parler de Facebook c'est pas mal. Avec le RGPD qui arrive, il y a Facebook qui dit s'adapter, et on est tout à fait disposé à le croire sur plein d'aspects par rapport à la réglementation européenne, mais la mondialisation fait que ça va avoir ou pas des répercussions sur un certain nombre d'utilisateurs de Facebook qui ne sont pas en Europe, Guillaume.
Bah bizarrement, ouais, tu sais, dans un précédent épisode, j'avais dit que Facebook souhaitait appliquer le RGPD un peu partout dans le monde, et pas seulement là où il était obligé, quoi, c'est-à-dire ici. Mais pourtant, la semaine dernière, il a pris une mesure assez surprenante, du coup, puisqu'il prévoit que désormais, les utilisateurs non US Canada et Europe seront gérés par Facebook Californie et plus par Facebook Irlande, comme c'était le cas. Et de fait, c'est quand même 1,5 milliard d'utilisateurs qui dépendront plus des lois européennes, et qui donc, de fait, par ce truc-là, par ce biais-là, Facebook va réduire d'autant son exposition obligatoire, en tout cas, au RGPD. Donc c'est assez curieux, hein, si le but c'était d'appliquer de manière volontariste les bonnes pratiques partout. Bon, voilà. Enfin bon, en tout cas, c'est pas le seul, puisqu'apparemment, LinkedIn peut faire exactement pareil.
Allô ?
Oui, allô ?
Ça a c'est coupé bon. Ah non, je croyais que t'allais enchaîner. Mmh. Non, effectivement. Bah, c'est... ça fait bizarre. Non, ça t'a fait bizarre pour les... Non, bon.
Je suis abrupt.
Mais écoute, oui, c'était abrupt. Tu m'as pris par surprise. Pierre-Olivier, une petite interprétation sur ce RGPD, sur l'application, notamment des conditions générales d'utilisation pour les non-résidents américains. D'ailleurs, est-ce que les Canadiens doivent être régis par le droit américain actuellement, j'imagine, non?
En vrai, ça serait un juge de trancher, parce que il suffit pas que Facebook dise que pour que ce soit appliqué. De fait, d'ailleurs, il y a plein de jurisprudence où Facebook a dit « Ah non, mais les terms and conditions disent que c'est jugé par X. » Et puis, ça, le tribunal s'est quand même déclaré compétent et ça a été jugé, ils ont perdu. Et, donc, c'est pas aussi simple que ça. De même, ça ne... comment dire ? Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas l'intention de l'appliquer. Ça veut juste dire que s'ils se chient dessus ou qu'ils changent d'avis, eh ben, ils se sont baqués à ce niveau-là, même si c'est un bout de duct tape, hein, parce que comme je disais, c'est pas parce qu'ils le disent que ça va être appliqué comme ça au niveau légal.
Du coup, on peut peut-être toucher un petit mot. On parle de RGPD sur le fait que il y a quand même une vision et des avis, je trouve, qui ont évolué. C'est-à-dire que quand on voyait venir cette nouvelle réglementation européenne, au départ, il y a beaucoup de voix qui se sont élevées en disant, en fonction de la taille de la structure, en fonction de ses capacités à digérer du réglementaire, que ça allait être compliqué. Je crois qu'avec le temps, ce type de voix s'est faite complètement oublier, notamment depuis l'affaire Cambridge Analytica, mais je pense pas que. Et en tout cas, il y a la CNIL qui a édité un guide à destination des TPE et des PME pour s'adapter justement à cette réglementation. Et je trouve que la manière dont c'est mis en avant, dont c'est expliqué, dont la pédagogie est apportée, est tellement claire que j'arrive à me demander pourquoi les lois ne sont pas faites de cette manière-là. Je trouve ça tellement pédagogique que ça mériterait d'être retenu comme description. Facebook, il y a eu un audit, Guillaume.
Ben oui, parce que tu sais que c'était prévu, on avait évoqué l'enquête de la FTC à son encontre, bon bah ben donc il va y avoir forcément un audit, et ben c'est fait.
Ils ont dû relever plein de problèmes.
Écoute, c'est PricewaterhouseCoopers, PwC, hein, je sais pas si vous connaissez, qui s'en est chargé. Il fallait savoir si Facebook avait ou non respecté son contrat ou avait trompé les utilisateurs, et de ce qu'on en sait, ils ont retrouvé à signaler, le rapport n'est même pas public. Et c'est une organisation qui s'appelle l'EPIC, l'Electronic Privacy Information Center, qui l'a réclamé à l'FTC, et l'FTC a finalement pondu une version super light du rapport, très très éditée, dans laquelle on peut lire la conclusion suivante. D'après nous, Facebook n'a pas un contrôle du respect de la vie privée suffisamment efficace pour fournir une protection raisonnable des informations en cause sur la période de février 2015 à février 2017.
Voilà. Aucun donc, problème alors.
Je comprends pas cette news parce que en fait c'est après la fuite de Cambridge Analytica.
Oui, c'est un moment où Facebook avait déjà supprimé la possibilité pour les développeurs de récupérer les informations, non pas de la personne qui donne son consentement, mais de ses amis.
Du coup, quelle est la pertinence de ce rapport ?
Effectivement, il n'y a pas de problème.
Mais du coup, quelle est la pertinence de cet audit ? Tu vois, j'ai pas très bien compris.
Je vote en touche.
Mais après j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait pas mal de zones d'ombre ou en tout cas des éléments qui n'étaient pas détaillés dans l'audit, je crois de mémoire, par souci de garantir un certain niveau de confidentialité ou de droit industriel, je sais pas quoi, de Facebook, ce qui est évidemment toujours un peu bizarre dans le cadre d'un audit qui est censé tirer des conclusions. Enfin bon, on est censé avoir plus d'informations, ou alors faut pas donner les résultats d'un audit si jamais il y a des éléments comme ça. Et du coup, quand on parle de Facebook et d'indignation, bah on va parler un tout petit peu de reconnaissance faciale. C'est une fonctionnalité qui était déjà en place, notamment pour les Américains, qu'on a vu là arriver. Moi, j'ai eu le petit message qui me demande explicitement de l'activer. Et alors, ce qui m'a paru assez formidable, et je crois que de toute façon, je suis pas le seul à avoir été interpellé là-dessus, c'est la manière dont c'est mis en avant. C'est-à-dire qu'on a une espèce de barre dans laquelle il y a deux boutons d'action, dont un où on a très 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 envie de cliquer visuellement, qui dit « c'est bon, j'active », et l'autre qui dit « je voudrais en savoir plus ». Et il y a des personnes qui se sont amusées à identifier un petit peu le parcours qu'il va faire pour refuser la reconnaissance faciale. Et il faut reconnaître que c'est très discutable sur la manière de le faire. Dans la période où on est, où à mon avis, il faut faire plus que jamais attention quand on est Facebook à la manière dont on recueille le consentement de l'utilisateur, là la manière est très discutable, je trouve. Moi j'ai une petite astuce pour vous, pour que ça aille plus vite. Acceptez d'activer cette option, et ensuite tout de suite après vous allez dans vos options Facebook et vous le désactivez, parce qu'en fait il est beaucoup plus facile de l'activer, de le désactiver dans la foulée, que de ne pas l'activer et de suivre le parcours pour ne pas l'activer. Pierre-Olivier, t'avais déjà ta reconnaissance faciale sur Facebook ou tu l'as activée ?
Non, mais par contre, dans les premières années de Facebook, c'est quelque chose qui existait déjà. Donc, j'avoue que moi, ça fait partie des trucs qui reviennent comme ça, sans que je sois au courant que c'était parti. C'est comme le mode offline de Gmail qui a été lancé la semaine dernière. Je sais pas, moi, ça fait 10 ans. Mais donc.
Mais voilà. Il me semble que la reconnaissance faciale s'était activée, mais pas partout et notamment pas en Europe, notamment pour des raisons plus ou moins légales, du coup, je crois. Il me semble, hein, de mémoire.
Je jure que je l'avais et que les personnalités sur mes photos étaient pré-taguées. J'avais juste à approuver que c'était bien cette personne.
Il y a peut-être un effet Mandela là-dedans.
Non, c'est possible.
C'était pas activé par défaut en Europe, alors que c'était activé par défaut ailleurs, je crois.
Ah, c'est pour ça, c'est une histoire d'activation par défaut. Bon, on va pouvoir creuser. Et puis surtout, si vous avez l'info, si vous avez des détails, n'hésitez pas à nous remonter ces éléments contre l'utilisation de la reconnaissance faciale sur Facebook. Et évidemment, un dernier point, quand ils recueillent votre consentement, ils vous disent bien que la fonctionnalité vise à vous protéger, hein. Ça vise à vous alerter si jamais quelqu'un publie une photo de vous à votre insu. Vous serez alerté. Donc évidemment, c'est donné comme étant une fonctionnalité de protection et préventive. Un petit mot aussi pour dire que Facebook a dévoilé ses méthodes de modération. Alors on va être hyper transparent avec vous. On a parlé de ce sujet juste avant l'enregistrement de l'émission.
On a rien foutu.
Et on a rien branlé.
On n'a pas
bossé. On a juste bossé le fait qu'on l'avait vu passer, mais on n'a pas creusé. Donc on va pas pouvoir rentrer dans les détails des méthodes de modération. On va prendre le temps de digérer ça et puis on reviendra dessus si ça le nécessite. Mais vous aurez au moins le lien dans les notes de l'émission. Un dernier petit mot. Bon, on a parlé d'indignation et de Facebook, d'Internet qui s'excuse. Et puis, on va clore la boucle avec un autre service, un autre réseau social, mais qui est beaucoup plus ciblé sur ses usages. C'est un site de rencontre, c'est Match.com. Qu'est-ce qui se passe du côté de Match.com? J'ai l'impression qu'il y a l'apocalypse zombie qui arrive, Guillaume.
Ouais, bah oui, on va terminer cette section en parlant d'amour un petit peu. Parce qu'Internet n'oublie rien, enfin les plateformes en tout cas, elles n'oublient rien. Et le nouveau rappel, ouais, il nous vient de Match.com. Alors c'est un simple bug apparemment, mais qui pourrait avoir des conséquences assez dramatiques si votre conjoint est jaloux, voire candidat au crime passionnel. Il y a un mec qui s'appelle Jason Debiak. C'est un homme heureux. Enfin, j'en sais rien. Hein. Toujours est-il que c'est un homme rangé. Il a une femme, des enfants, mais bon, 15 ans auparavant, il avait eu recours à Match.com pour retrouver l'âme sœur. Et non, je sais pas si son actuelle femme a été trouvée sur le site ou s'il a juste bousculé à la caisse du Monoprix. Tu sais comment ça se passe. Un regard, un coup de foudre, une nuit torride. Enfin bon, je m'égare.
Un renversement de panier rempli de poireaux.
Je m'égare, ouais, non, c'est tellement romantique. Donc bon, enfin, en tout cas, ce vieux Jason, il a reçu des notifs. Et 15 ans plus tard, bah, il matche toujours le Jason. Alors bien sûr, elle avait clôturé son compte des années auparavant, mais ça n'a pas empêché de se retrouver sur le marché comme au bon vieux temps. Et c'est pas la seule personne à constater que 4, 10 ou 15 ans après, Match n'avait rien oublié sur eux. Et bien entendu, il fait mentir au passage l'adage « loin des yeux, loin du cœur ».
Moi, je pense surtout que ce mec, c'est un gros dégueulasse et qu'en fait, il voulait faire des infidélités à sa femme et que la seule excuse qu'il a trouvée, c'est de dire « Non, mais regarde, mon profil s'est réactivé à l'insu de mon plein gré. » Non, je rigole, bien entendu, c'était juste pour dire, parce qu'en plus, il y a plein de profils qui remontent. Un petit mot aussi dans le témoignage de l'article. Au début, il dit « Ah, j'étais en famille en train de déjeuner, je sais plus, j'ai plus les détails, mais en gros, il était en train de déjeuner en famille. Je ne regarde jamais mes emails quand je suis à table en famille, mais là, je les ai regardés exceptionnellement, et on a tous dit ça, hein, on est tous ceux qui ne regardent jamais leur smartphone en repas, en famille ou en couple, et qui, comme par hasard, une fois exceptionnellement, regardons la notification. Pierre-Olivier, t'as un vieux profil qui se réactive, toi, ou pas, là, en ce moment? Non, c'est bon?
Bah, normalement, Match.com, non, c'est bon. Mais ceci dit, je me dis, putain, le pauvre, il a dû quand même stresser en maudit là quand il était à son repas de famille, parce que genre, tu vois ça, tu dois te demander, genre, mais attends, il y a pas un soir où j'étais bourré et j'ai réactivé le truc, comment ça se fait, je sais, enfin, moi ça me viendrait pas tout de suite à l'idée de me dire, ah bah les cons, ils ont réactivé mon profil sans que je fasse rien, enfin, genre je suis développeur, ça arrive pas normalement, ouais. Donc Bon.
Mais c'est quand même très déroutant hein, de se dire que on ferme ou on supprime un profil. Et bon, déjà qu'il soit pas supprimé, c'est déroutant. Qu'il se réactive tout seul, laisse tomber. Et en plus, il a fait des pieds et des mains avec le service client de Match.com où il demandait à plusieurs reprises, non, mais je veux qu'il soit supprimé. Oui, oui, nous allons le clôturer, le rendre inaccessible. Non, mais vous me supprimez mes données maintenant. Et on se rend compte que c'est un truc qui n'est probablement pas possible en interne. Ils n'ont pas la possibilité, ils n'ont pas développé la possibilité de le faire. J'imagine qu'ils peuvent pas attaquer les bases en manuel. Bon, si, on peut toujours le faire. Pierre-Olivier, on te perdait un tout petit peu au niveau du son. Par contre, on n'a pas de souffle et je te remercie. Je n'ose pas imaginer dans quelle situation tu te contorsionnes pour enregistrer cet épisode. Donc, merci beaucoup. On enchaîne avec une autre dimension de news qui va prendre une dimension plus industrielle et qui va prendre peut-être moins l'angle de l'indignation. On va commencer, on va parler de Tesla, Amazon, et on va donc commencer à parler de Tesla, qui se retrouve évidemment dans des difficultés qu'on avait déjà identifiées, hein, notamment pour la production de la Model 3, qui est la Tesla, prenez les guillemets, accessible au grand public, telle qu'elle a été annoncée, et qui souffre des délais de production très importants. Et Elon Musk s'est exprimé là-dessus, Guillaume.
Ben, ça chauffe en ce moment pour Tesla, hein. Il a du mal à produire en masse donc cette Model 3, et c'est vrai qu'on a toujours une image un peu romantique de Musk, mais de tout ce qu'il fait d'ailleurs, mais bon, force est de constater qu'il fait aussi beaucoup de bourdes, et apparemment celle qu'il a faite avec Tesla, ben, ça a fait bien rigoler ses concurrents directs du monde automobile. En 2016, Tesla embauchait un cadre d'Audi avec un objectif hein, clair, c'est robotiser le plus possible avec des machines de performance jamais vues. Et deux ans plus tard, ben, force est de constater que ça a complètement foiré, et après une année de galère, l'usine de Fremont et celle de Clark sont carrément arrêtées pour une réorganisation complète de la chaîne. Et ce qui fait marrer General Motors, c'est que Musk a fait la même erreur qu'eux-mêmes dans les années 80, puisqu'apparemment General Motors a investi des milliards dans le développement de la robotique pour éliminer le plus d'humains possible, et ça ils l'ont fait pratiquement en pure perte. À l'époque, ils avaient une usine, l'usine d'Amtrak, qui se voulait robotiser à outrance, et pourtant elle employait 5000 ouvriers, alors que les chaînes de Ford en employaient 3700 avec beaucoup moins de robots et un rendement largement meilleur. Alors bien sûr, aujourd'hui, les robots, ils sont quand même beaucoup plus sophistiqués qu'il y a 30 ans, ils peuvent même monter des meubles IKEA. Hein. D'ailleurs, sans rire, hein, j'ai vu ça à l'université de Nyangyang, c'était Nyangyang, je crois. Déjà rien que le nom.
C'est assez Nyangyang, cette news.
C'est fou, hein. À Singapour, des chercheurs ont construit un robot qui, de ses deux bras, hein, il est capable de monter une chaise IKEA en 20 minutes. Bon, c'est pas encore la lingère à tiroir, hein, parce que la lingère à tiroir, c'est un autre problème. Mais bon, toujours est-il qu'un robot, ça va, mais bon, apparemment, des dizaines à la chaîne synchronisées à la perfection, bah, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et donc, bah, Tesla, selon les chiffres, hein, aurait produit que 83 000 véhicules. Avec environ entre 6 et 10 000 ouvriers. Et pour donner un ordre de grandeur, l'usine de General Motors Toyota avait moins de 5 000 employés en 97 et elle produisait plus de 350 000 véhicules par an. Bon, donc apparemment les méthodes qui fonctionnent pour une start-up du logiciel, ça marche pas du tout pour une énorme usine de production industrielle. Et le 13 avril d'ailleurs, Elon lui-même a retweeté l'automatisation à Tesla est excessive, les humains sont sous-évalués. Je suis bien d'accord.
J'aime bien ces tournures. Pierre-Olivier, t'avais une petite remarque là-dessus.
Ouais, moi j'ai roulé la calculette pour avoir un petit peu les chiffres et pouvoir comparer avec des choses comparables, parce que ben en Amérique du Nord, il y a beaucoup d'usines de voitures qui sont extrêmement low-tech, et donc je voulais comparer par rapport à l'usine Toyota Yaris en France, qui est l'une des plus récentes et qui, il se trouve en plus fortuit hasard, utilise les mêmes robots de montage que l'usine Tesla, puisque Tesla, moi j'ai toujours pensé qu'ils avaient développé leur propre chaîne de montage, mais en fait ce sont des chaînes de montage de Toyota justement. Et donc pour comparer les chiffres, l'usine de Tesla est 4 fois moins efficace que l'usine de Toyota en France. Par contre, il y a quand même quelque chose d'intéressant à noter, c'est que Tesla n'a presque aucun sous-traitant. C'est-à-dire que tout ce qui compose la voiture, ou presque, est fabriqué par Tesla. Alors évidemment, on ne se parle pas des processeurs et de ce genre de choses, on se parle essentiellement des pièces mécaniques, mais aussi batteries, moteurs, etc. Et donc, en fait, quand on compare réellement le nombre de personnes
qui sont utilisés pour monter une voiture, et ben avec le cas Toyota, ça monte à beaucoup plus parce qu'il faudrait additionner tous les sous-traitants qui dépassent dans ce cas-là largement les 8000 personnes versus 6000 dans l'usine Tesla. Donc en fait, les rendements sont assez comparables. Ça n'empêche pas que le nouveau raisonnement, en tout cas le changement d'avis d'Elon Musk est justifié, puisque bon, bah c'est clair qu'en fait les ouvriers sur les chaînes de montage sont pas extrêmement bien payés, ils ont pas d'avantages sociaux très forts non plus, là où les robots, eux, coûtent extrêmement cher et doivent être adaptés à chaque changement dans le véhicule à monter, hein. Il suffit pas d'uploader les modèles du véhicule et puis yop là et les robots fonctionnent. C'est beaucoup plus compliqué que ça et donc le raisonnement reste que ben l'humain coûte beaucoup moins cher que le robot pour le moment.
Et puis je me posais la question aussi peut-être pour encore une fois nuancer peut-être des avis un peu tranchés qu'on pourrait avoir. Je me demandais, et là j'en appelle à votre requête, à votre célérité dans Wikipédia ou peut-être à vos connaissances, je me demandais quelle était l'ancienneté notamment des usines Tesla par rapport à l'ancienneté typiquement de cette usine qui produit la Yaris. Je me demande si là aussi, enfin bon, de toute façon, il y a une ancienneté de savoir-faire de l'entreprise de Tesla qui n'est pas la même que les autres entreprises. Donc, il faut peut-être mettre ça.
Oui et non, parce que, en fait, l'usine de Fremont, c'est un ratat.
Alors, attends, ça vibre un peu, Pierre-Olivier. Alors, je ne sais pas si tu as rajouté une chaussette sur ton micro ou tu as un peu la voix étouffée.
Non, c'est ma capuche. Parce que
ah, bon.
Non, je disais qu'en fait, oui et non, parce que l'usine de Fremont, c'est un rachat que Tesla a fait, hein. Donc ça venait avec des gens, ça venait avec une partie de la chaîne de montage, ou plus exactement la chaîne d'assemblage, qui est pas une création de Tesla. Ce que Tesla a rajouté, c'est beaucoup de bâtiments qui sont dédiés à la production des batteries et aux autres pièces qui sont spécifiques à Tesla et qui n'étaient pas fabriquées dans cette usine. Mais le savoir-faire, normalement, il est, en tout cas, il est réputé acquis et non pas développé par Tesla.
D'accord. Un petit mot peut-être sur les conditions de travail chez Tesla.
Un gros mot, parce qu'effectivement, donc les travailleurs chez Tesla, il y en a beaucoup. Apparemment, ils sont pas très chers, et pourtant la considération a pas l'air d'être super haute, puisque il y a deux journalistes du Reveal qui ont mené l'enquête sur les accidents de travail là-bas, et puis c'est pas brillant. Non seulement le nombre d'accidents de travail est significativement au-dessus de la moyenne du secteur, mais en plus il y a beaucoup de blessures qui seraient tout simplement pas prises en compte, pas loguées, tu vois, pas enregistrées. Les journalistes ont recueilli pas mal de témoignages d'ouvriers blessés et parfois handicapés à vie, hein, qui décrivent une usine où la sécurité n'est pas la priorité. Les canons sont très soutenus, pour les raisons qu'on a indiquées plus haut d'ailleurs, et les chefs d'équipe sont invités à pousser au maximum les ouvriers, quitte à les faire prendre sur eux jusqu'au point de rupture. Il y a des postures non ergonomiques, des charges lourdes qui transportent des vapeurs toxiques. Alors l'usine est moderne, mais les problèmes sont pas vraiment modernes, c'est un petit peu toujours pareil. Et apparemment, le constat est même aussi valide pour les cadres. Parce qu'il y a un mec qui s'appelle Ali Khan, qui est un analyste et qui préparait des rapports financiers, et il travaille 12 heures par jour, sans aucun jour de congé, même pas de week-end. Et puis il a été forcé d'arrêter quand la tendinite lui permettait même plus de saisir un verre d'eau. Il a démissionné en août 2016, alors que la direction lui refusait les postes prescrits par le toubib. Son cas, d'ailleurs, a jamais été compté comme une maladie professionnelle. Alors du coup, avec tout ça, évidemment, la tentation de former un syndicat semble assez légitime, hein, mais Tesla voit pas ça comme ça. Et franchement, la boîte a répondu de manière très agressive et vachement maladroite. Elle a carrément invoqué les fake news. Pour elle, c'est de la propagande syndicaliste, hein, qui vise à miner l'image de la marque. Voilà, rien que ça. Ça fait plus d'un an que les témoignages vont et viennent sur les conditions de travail à Tesla, et bon, il a envie de s'y syndiquer d'ailleurs, et tout ça malgré d'ailleurs une NDA qui est signée par tous les employés. Donc je sais pas ce qu'il en est vraiment de cette rumeur, hein, et qui veut que les usines d'ailleurs n'ont pas de signalétique jaune réglementaire parce qu'Elon y est allergique, mais bon, enfin en tout cas, si les humains sont sous-évalués comme il le dit, bah, c'est peut-être le moment de revoir un petit peu l'organisation profondeur, ouais.
Et ce qui est indiqué, c'est qu'effectivement, il supporterait pas le jaune, alors il refuserait que les marqueurs de sécurité qui sont habituellement jaunes figurent. Je trouve ça un peu facile et hâtif de prendre ça au pied de la lettre, mais va savoir. Le personnage est tellement incroyable, on sait pas trop ce qui peut distiller dans l'entreprise. Un dernier mot pour clore cette rubrique sur Internet, où on reparle de neutralité du net et d'accès à Internet, Guillaume.
On parle pas d'Amazon? On parlait pas d'Amazon.
Mais bien sûr qu'on parle d'Amazon. Mais bien entendu, Guillaume. Mais excuse-moi, j'ai sauté une rubrique. Mais bien sûr. Bah enfin, Guillaume, bah tu voulais pas parler d'Amazon, alors. Tu prépares toutes les notes de l'émission, tu prépares le conducteur et tu veux pas parler d'Amazon.
Amazon,
qui est exemplaire sur son fonctionnement, oui, notamment oui, oui. Sur le plan fiscal.
Non, parce qu'on va continuer dans notre esprit de Germinal 2.0, là. Amazon, c'est bien, c'est une petite entreprise qui connaît pas la crise. Ah, toi, c'est plutôt une super énorme entreprise de l'enfer qui connaît pas la crise. Et sa croissance est dans une multitude, mais délirante de secteurs, elle est hallucinante, et d'ailleurs, elle fera dans le dos d'un petit peu tout le monde. Parce qu'en 2021, selon ses propres projections, Amazon pourrait être à l'origine d'un achat en ligne sur deux. Et bon, cette croissance, est-ce qu'elle aurait été possible sans une bonne rasade d'argent public? Ben, c'est pas sûr du tout. Parce que tout petit déjà, Amazon exploitait les failles dans les législations des divers États pour éviter l'équivalent de la TVA. C'est un avantage compétitif qui fut bien utile. Et bon, bien des années plus tard, Amazon, devenu très 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 grand, engrange 5,6 milliards de dollars de bénéfices, mais réussit le prodige de ne payer aucune taxe fédérale aux États-Unis. Alors c'est des tours de passe-passe bien rodés hein, et pas du tout illégaux, hein, au demeurant, qui lui permettent de tout réinvestir pour pouvoir encore mieux écraser ses concurrents. Mais pas du tout pour contribuer au mieux-être du pays, qui pourtant lui a donné déjà plus de 1,2 milliard de dollars en subventions. Ben oui, parce que Amazon, depuis sa création, a récolté 1,2 milliard de dollars de subventions publiques connues dans les divers États où il s'est implanté. Souvent c'est pour la création d'emplois, hein, des emplois d'ailleurs dont on va reparler. Et bon, mieux encore, hein, il arrive régulièrement que les États financent des infrastructures pour lui faciliter la tâche et l'amener à s'installer chez eux, tu vois, donc ça fait encore quelques petites économies. Et donc, c'est déjà pas mal, et ces derniers temps, il y a une espèce de cerise sur le caca, c'est qu'Amazon accepte désormais d'être payé en bons alimentaires, c'est les fameux SNAP. Et SNAP, c'est les Supplemental Nutrition Assistance Program. C'est une aide alimentaire sous forme de tickets resto, si tu veux, hein, qu'on distribue aux plus bas revenus. Alors bien sûr, c'est pas le seul, hein, Walmart, McDonald's aussi, ils les prennent. Et là où ça devient vraiment génial, c'est qu'une portion significative des travailleurs d'Amazon bénéficient des bons SNAP, tellement ils sont payés au lance-pierre. Selon les États, c'est entre un tiers et un dixième des ouvriers Amazon qui auraient recours à l'aide alimentaire. D'ailleurs, en 2013, CNN montrait qu'en moyenne, les manutentionnaires chez Walmart faisaient 40 000 à l'année, contre 24 300 dollars chez Amazon. Et plus récemment, les salaires sont au moins 15% inférieurs à la moyenne du secteur chez Amazon. Et en plus, mais évidemment, Amazon emploie aussi des temporaires, des intérimaires, des sous-traitants, enfin je sais pas, rien à mentionner utile, aux côtés de leur CDI, et cela rentre carrément pas dans le calcul, mais bon, étant donné que je doute que leur salaire soit plus élevé, il y a gros à parier que ça fasse encore grossir les statistiques. Et donc, coup de génie, Amazon économise sur les salaires en laissant l'argent public combler le trou, et en plus, ben, ils peuvent dépenser cet argent sur Amazon, puisqu'Amazon accepte les snaps. Ça fait donc un coup double. Du coup, mis bout à bout, les subventions, les cadeaux structurels, les aides aux ouvriers, aucune contribution fiscale, ça commence à faire une contribution vachement appréciable qui vient des finances publiques. Donc c'est un avantage certain pour Amazon, hein. Et c'est même plutôt anticoncurrentiel, il me semble. Alors de là à dire que la croissante demande d'Amazon s'est fait en bonne partie, elle est directement financée par le contribuable, il y a qu'un pas que ben, finalement j'ai déjà sauté, d'ailleurs, en fait.
Ah, c'est intéressant, c'est peut-être ce qui va me permettre d'enchaîner le micro à notre reporter sous la pluie québécois, mais est-ce qu'on peut considérer que c'est parce que ils arrivent à jongler avec un environnement fiscal on va dire plus que les autres en tout cas qu'ils arrivent autant à se développer? Est-ce que finalement c'est pas plutôt un avantage lié à une telle croissance? Moi je garde quand même en tête là, moi qui habite Amiens, l'implantation du centre d'un centre Amazon là qui a eu lieu cette année, il y a quelques mois, pas très loin d'ici. C'est vrai que d'un point de vue économique, le fait d'avoir dans une région comme la Picardie un complexe important et grand hein, tel qu'Amazon, c'est un cadeau venu du ciel pour un rayonnement en termes d'emploi, etc. Presque à tous les prix. On parle d'ailleurs, je revoyais passer l'autre jour des articles qui expliquaient des témoignages, encore une fois il faut considérer ça uniquement comme des témoignages, mais de personnes qui, travaillant dans les locaux d'Amazon, ne prennent même pas leur pause réglementaire par souci de pas être assez productif et vont jusqu'à faire pipi dans des bouteilles qui vont vider aux toilettes plus tard. C'est assez déroutant. Ta vision, Pierre-Olivier, sur Amazon, il faut les clouer au pilori ou est-ce que finalement tout ça s'explique de par la grandeur de l'entreprise?
Non, Amazon, ça n'a jamais été une entreprise d'enfant de cœur. Hein. Jeff Bezos, c'est quelqu'un de très proche des mouvements libertariens. Donc, Il va prendre tout ce qu'on peut lui donner et ne jamais en laisser. La seule raison pour laquelle l'entreprise déclare enfin des bénéfices, c'est parce que ben c'est pas le seul actionnaire. Hein. S'il était le seul aux commandes, Amazon ne déclarerait toujours pas de bénéfices. Le problème, il est tellement à différents niveaux que ça paraît presque impossible aujourd'hui de l'adresser. Pourtant, il va bien falloir. C'est le fait que les municipalités et les États ou les provinces au Canada ou les régions en Europe sont finalement mises en concurrence. Et il y en a certaines qui s'en sortent plus ou moins bien. Celles qui se sortent moins bien du lot vont essayer de se rattraper aux branches en manipulant toutes les possibilités légales qu'elles ont pour être attractives pour une entreprise. Donc ça peut être la construction d'infrastructures routières notamment, mais pas seulement. Ça peut être d'alléger les impôts ou de les faire disparaître pour un certain nombre d'années. Et quand on tombe sur des entreprises qui jouent le jeu, comme par exemple Ubisoft au Québec, qui a longtemps pas payé d'impôts et qui aujourd'hui a largement contribué à la communauté en finançant un paquet de choses, des garderies, une chaire de recherche à l'université, des installations artistiques, etc. Ben ça pose pas trop de problèmes, même si ça fait quand même sourciller certaines personnes. Mais quand ça tombe sur des entreprises qui ne sont pas du tout intéressées à jouer ce jeu, tel qu'Amazon, ben là, par contre, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est que la région, elle essaye, elle pense faire un investissement en se disant qu'elle va récupérer les impôts locaux des employés. Mais la réalité, c'est que de toute façon, ils sont payés trop faiblement pour payer des impôts eux aussi. Et donc au final, personne s'y retrouve, en tout cas côté public, et il y a un certain nombre de choses à faire, mais je pense que c'est plus un problème de mentalité qu'autre chose. Et d'ailleurs, j'aimerais bien renvoyer, je fournirai le lien à des calculs que le patron de Costco avait fait il y a quelques temps, justement en réponse à des actionnaires qui trouvaient que les employés chez Costco, qui sont en moyenne payés deux fois plus que Walmart, coûtait beaucoup trop cher. Et lui, en fait, il avait montré que il coûtait, même si leur salaire était deux fois plus élevé, il coûtait beaucoup moins cher que ceux de Walmart parce qu'il y avait pas de turnover. On rentre chez Costco, on finit souvent sa carrière chez Costco, donc les coûts de recrutement sont complètement annulés et au final on s'y retrouve. Et donc lui, il expliquait à quel point il était plus rentable. Et ça, c'est un raisonnement qui ne touchera jamais Amazon. Parce que là-dessus, Amazon réfléchit non pas en bon dirigeant d'entreprise qui est là pour faire des bénéfices, mais en idéologue.
Mmh. Ouais, c'est intéressant de suivre ta vision de compétition des régions aussi que tu décris pour Amazon. Effectivement, je pense que c'est quelque chose qui est aussi assez clé, mais c'est un problème qui va être difficilement soluble. Deux derniers points peut-être sur Amazon. Ils vont nous proposer peut-être des robots gratuits, Guillaume. Tu vas me faire rêver là.
Ouais, bah pour finir pour boucler sur Amazon, Amazon aurait un plan pour mettre des roulettes et des caméras sans doute hein, à Alexa. C'est un projet qui aura le nom de code Vesta, comme la déesse du foyer, et qui serait mené au Lab 126 et serait ni plus ni moins qu'un robot domestique grand public. Donc Amazon embauche à tour de bras en ce moment pour, d'après la rumeur, commercialiser ses robots dès 2019, si tout va bien. Et les employés d'Amazon, justement, pourraient voir arriver les premières unités de test dès cette année. Donc, enfin, si les tests sont pas concluants, d'ailleurs, le produit pourrait aussi ne jamais sortir. Donc voilà, est-ce que vous remplacerez vos chats par des robots Amazon l'année prochaine? Ben, vous le saurez en écoutant Tech Café.
Bah le problème, c'est quand même à quoi ça sert, quoi. Mais c'est déjà une question qu'on a déjà adressée. C'est que je ne vois toujours pas la valeur ajoutée d'avoir un robot chez toi. Au-delà de faire classe dans les films de science-fiction parce qu'il t'apporte ta bière, il t'enlève tes chaussures pour te donner tes pantoufles, je vois pas la plus-value d'un robot. Mais peut-être que je changerai d'avis quand je verrai ce qu'Amazon a proposé. En attendant Amazon, mais ça, je crois qu'on l'avait déjà vu annoncer, et en tout cas, c'est plus ou moins effectif maintenant. À condition d'avoir un véhicule compatible, on va pouvoir se faire livrer dans le coffre.
Tout à fait, ça c'est une nouveauté que Amazon vient de lancer, ça y est c'est effectif aux États-Unis et évidemment ça n'est pas sans rappeler le fait de pouvoir livrer directement au domicile en ouvrant la porte, Mais moi, je l'interprète un petit peu différemment parce que pour moi, livrer à l'intérieur du domicile, c'était une réponse aux très nombreux vols de colis qu'il y a aux États-Unis, puisque les colis livrés par la poste US sont juste déposés devant la porte. Et caché vulgairement sous un paillasson, c'est-à-dire pas caché du tout. Là, pour moi, la livraison dans le véhicule, elle ressemble beaucoup plus à un pied de nez à notre cher perruque orange Donald Trump, qui récemment avait pris en grippe Jeff Bezos et avait insinué que le Amazon profitait du gouvernement US par le biais de l'US Postal, qui est une entreprise qui perd de l'argent là où Amazon en gagne. Alors le calcul est totalement erroné, hein, parce qu'en réalité, si l'US Postal survit, c'est précisément parce qu'elle livre des colis, vu que le courrier, lui, par contre, c'est la descente aux enfers. Mais finalement, cette façon de livrer, qui serait forcément par des transporteurs privés, dans le véhicule, moi je l'interprète comme une réponse à Donald Trump en mode ben écoute, si tu veux, nous l'US Postal, on s'en passe, il n'y a pas de problème, ce sera toujours plus simple de livrer dans les véhicules.
Ouais, c'est clair. À mon avis, c'est une fois de plus un faux débat, une interprétation tout à fait douteuse, effectivement. Pierre-Olivier, tu m'avais prévenu que tu pourrais pas rester probablement tout le long de l'émission si elle durait plus d'une heure, ouais. Ce qui arrive jamais, mais bon, exceptionnellement, elle dure un peu plus d'une heure. Est-ce que tu veux rester encore quelques minutes, nous faire part d'un bonus ou nous quitter?
Eh bien non, je vais quitter parce que en plus que mon temps est maintenant presque écoulé, il commence à pleuvoir extrêmement fort et j'ai quand même mon MacBook dans la main, donc c'est pas très cool. Alors je vais rentrer dans le bureau et le bruit de la construction et vous dire mes plus chaleureux au revoir.
Merci beaucoup Pierre-Olivier, tu nous rappelles où est-ce qu'on peut te suivre sur Internet?
Ne me suivez pas, je suis mouillé.
Ça va glisser.
Facebook est pas en odeur de sainteté, mais on peut quand même me suivre sur Facebook. Et puis surtout, depuis quelque temps, je suis assez actif sur la communauté Tech Café de Telegram que Guillaume a monté. Donc c'est un bon endroit pour venir me confronter ou m'assister.
Merci beaucoup Pierre-Olivier d'avoir joué le jeu du reporter sur le terrain et on te souhaite une excellente fin de journée du coup. Merci beaucoup et à la prochaine.
Ouais, merci podcasteur de l'extrême.
C'est bon. On va jusqu'au bout. Merci Pierre-Olivier. Allez, on enchaîne Guillaume, on a encore des jolies choses à relayer, enfin jolies selon les points de vue évidemment. On passe à une nouvelle rubrique, encore une fois à aller sur techcafé.fr, aller regarder la façon dont Guillaume avait préparé l'émission et surtout avec les petits intitulés. Si vous avez lu 1984, ça va vous parler. Un petit mot sur les grands enjeux étatiques. Alors un premier élément, notamment sous l'angle des deepfakes, on en avait parlé, hein, des deepfakes, c'est cette technologie sur la base d'algorithmes qui vous promettent et qui arrivent en plus à remplacer des visages plus vrais que nature par d'autres visages. Donc évidemment, les usages premiers qui nous ont sauté aux yeux étaient ceux du porno, où on faisait remplacer le visage d'une actrice par une célébrité par exemple. Mais évidemment, l'usage est tout à fait transposable sur plein d'autres situations. On craignait, on citait déjà à l'époque, hein, quand on en parlait Guillaume, les usages de détournement politique, roulement de tambour.
Bah oui, on l'avait prévu, hein, mais faut dire que c'était pas très dur. Les premiers fakes politiques arrivent, c'est enfin. Heureusement, pour le moment, c'est qu'une preuve de concept plutôt. C'est BuzzFeed qui a publié une vidéo d'Obama qui lui-même met en garde contre les fake news et contre les deepfakes, en disant des insanités, mais évidemment, Barack Obama ne les a jamais dites. En fait, c'est Jordan Peele qui est le CEO de BuzzFeed et Jonah Peretti qui se trouve être le beau-frère du réalisateur. Donc Jordan Peele n'est pas le CEO, hein, je me suis mal exprimé, c'est Jordan Peele et le CEO de BuzzFeed qui s'appelle Jonah Peretti et qui est le beau-frère du réalisateur. Jordan Peele, c'est celui qui a fait Get Out, je crois, qui ont eu donc l'idée de faire dire un faux discours à Barack Obama. Donc c'est Peele qui prononce le discours. C'est vrai qu'il n'a pas exactement la voix d'Obama, mais bon, je rappelle qu'Adobe a un prototype pour faire ce genre de truc. Et il prononce le discours, et en fait, c'est Peele qui prononce le discours, et il y a le bas du visage, de son visage, qui est transformé en celui d'Obama par deepfake, par une technologie de deepfake, et après, il a utilisé After Effects aussi pour finaliser le truc. Et après 56 heures de calcul, t'as un clip qui est visuellement parfaitement crédible, d'Obama qui dit absolument n'importe quoi, ce que tu veux, ce que t'as envie qu'ils te disent. Alors donc du coup voilà que le fake il est là pour durer. Hein, et d'ailleurs apparemment il perdure même aux endroits où il devrait avoir été chassé, parce que par exemple sur Pornhub, qui avait promis de mettre un petit peu d'ordre là-dedans, on en retrouve encore. Donc BuzzFeed avait retrouvé des trucs en utilisant le mot-clé deepfake, donc ça a été plutôt facile. Alors depuis, ces occurrences ont disparu. Bon, alors évidemment, votre serviteur, qui ne recule devant rien pour vous apporter l'information la plus précise possible, s'est sacrifié pour aller chercher des vidéos avec Gal Gadot et Scarlett Johansson, et il en a trouvé. Il y a donc toujours des deepfakes sur Pornhub, et bien entendu, en général, ça se fait passer pour des leaks de vrais sextapes. Donc voilà, un œil non averti, d'ailleurs, pourrait n'y voir que du feu. Et bon, bah, y en a marre, hein, les deepfakes, hein, il faut dire que c'est vrai, parce que, je veux dire, on peut plus de voir Nicolas Cage partout, puis, c'est vrai que le voir Lois Lane à la place d'Amy Adams, c'est quand même très perturbant. Du coup, la guilde des acteurs américains, qui s'appelle le SAGE, Screen Actor Guild, a décidé de lutter activement contre les deepfakes, et soit par la voie législative, hein, en gros, ils veulent faire passer des lois qui interdisent explicitement la fabrication de fakes, qui impliquent des acteurs vivants ou morts, sans leur consentement. Alors c'est un bon début, sans doute. Après, on se doute que ça va pas être facile, hein, vu l'ampleur du phénomène. Il y a un site qui est tout à fait présentable, qui fournit tous les outils et les tutos nécessaires. Bon, c'est le truc qui pourrait... Si ça peut booster la carrière de Nicolas Cage, c'est pas mal. alors bon, ça va être très 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 compliqué. Mais il y a des outils qui arrivent. C'est une news très très récente. Il y a un article qui est paru il y a vraiment très peu de temps sur des chercheurs qui ont essayé d'utiliser justement du deep learning pour en fait pour trouver les deepfakes. C'est-à-dire pour automatiser parce que j'ai dit justement que c'était pas facile de différencier un fake d'une véritable vidéo, et donc du coup ils ont entraîné des réseaux à le faire, et apparemment c'est assez prometteur, donc il est pas impossible qu'il y ait des contre-mesures qui arrivent sous forme d'autres algorithmes de deep learning. Ce qui est très rigolo, c'est que ça se mord complètement la queue, parce que vous faites des deepfakes, vous faites un algorithme de deep learning qui permet de détecter les deepfakes et qui donc en fait détecte les imperfections.
Et donc,
mais ces imperfections, évidemment, dès qu'elles sont connues, du coup, le réseau peut même se permettre de les corriger. Donc en fait, l'outil pour détecter les deepfakes peut être retourné pour améliorer les deepfakes. Donc c'est ça promet, voilà, ça c'est très très prometteur. Le feuilleton est loin d'être terminé.
C'est le jeu du chat et de la souris, et je t'avoue que moi, tant qu'on va parler de deepfakes sous l'angle « ça pourrait arriver, ça arrive, regardez ce qu'on peut faire », à la limite, c'est une chose, mais quand il y aura des grands événements, des grands changements, des bouleversements peut-être de pays, sans parler forcément de guerre, quoique, qui seront déclenchés et qu'on se rendra compte a posteriori que c'était des choses comme ça qui les ont déclenchés, c'est là où évidemment ça nous fera encore plus trembler, je pense. Attaque de la Russie, Guillaume, et alors sur tous les plans, puisque d'après les dernières infos et les dernières visions d'experts en sécurité informatique, il semblerait que la Russie soit pas forcément intéressée uniquement par des grands enjeux industriels ou des grands États, mais finalement, peut-être que ton routeur, Guillaume, a été piraté par les Russes, peut-être que le mien l'est aussi, peut-être que mon smartphone est sous écoute. Ouais, on a envie de se dire, est-ce que ça intéresse vraiment les Russes de savoir à quelle heure est-ce qu'on va enregistrer ta café, Guillaume?
Eh bien oui, soyons tous paranoïaques. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'exhorte à faire le FBI, le NCSC, qui est le National Cyber Security Center. C'est donc une instance anglaise. Et de manière assez rare, hein, le 16 avril, donc le FBI et le NCSC ont lancé un communiqué en commun pour alerter contre les attaques russes sur les infrastructures réseau. L'alerte porte sur toutes les machines, mais surtout, ça précise que les cibles de choix des hackers, c'est désormais les routeurs, et plus vraiment les machines. Ça fait plusieurs années maintenant, d'ailleurs. Hein. Les Russes tenteraient de compromettre le plus de routeurs possible, et ça de manière complètement silencieuse. Alors en plus, il faut dire que les routeurs sont pas forcément toujours maintenus à jour, hein, que ce soit par le constructeur ou par les administrateurs, en tout cas pas avec le même zèle que les machines sur le réseau. Et donc, avoir le contrôle de ces points de passage où transitent toutes les données, évidemment, c'est super avantageux. On peut faire de l'espionnage, hein, on peut sonder les machines vulnérables sur un réseau, on peut modifier à la volée les données transmises, on peut les utiliser pour relais, pour camoufler des traces d'autres attaques qu'on pourrait perpétrer ailleurs, ou même simplement, on pourrait carrément insérer la propagande à la volée sur les sites que vous visitez. Et si donc, effectivement, si tu crois que ces avertissements concernent que les fournisseurs d'accès Internet, c'est pas vrai. Le rapport indique, je cite, que « personne n'est assez insignifiant pour ne pas être ciblé ». Donc, c'est très flatteur, mais c'est aussi très, très, très flippant.
C'était quoi ce bruit? J'ai l'impression qu'il y a une grosse moto qui est là.
C'était une moto dans la rue, oui.
D'accord. Mais c'est, en finale, on se dit, qu'est-ce qui risque, en fait, à aller espionner, attaquer les routeurs domestiques ou de petites entreprises? Finalement, il risque peut-être pas grand-chose. Les chances de succès sont énormes, même si le gain potentiel est peut-être moins fort. Mais enfin, déjà, de pouvoir s'installer partout, potentiellement, hein, et apprendre avec des guillemets partout, et le fait de tenter sa chance, finalement, j'imagine que oui, il y a suffisamment à exploiter. Et finalement, peut-être même que c'est une cible tout aussi intéressante à grand volume pour la réexploiter pour d'ailleurs d'autres attaques par la suite, des attaques de DDoS ou même du renseignement, peut-être plus intéressant que de cibler des entreprises directement. Et puis finalement, on peut aussi tomber sur des employés d'entreprises qui, à titre perso, chez eux, sont moins regardants et stockent des infos qui sont en lien avec leur boulot. Ça pose plein de questions. C'est hyper intéressant ce rapport. Allez lire l'article. On parle de Russie, on parle de piratage. On va parler en tout cas de Telegram. Alors pas forcément sous l'angle du piratage, mais plutôt à l'inverse, sous l'angle du blocage. Puisque ça y est, la Russie a procédé au blocage qu'elle avait annoncé dans le cadre de ses menaces à l'encontre de Telegram. L'idée, c'était que si Telegram ne parvenait pas à lui donner les clés de chiffrement qui permettent de regarder les conversations chiffrées donc sur Telegram, eh ben ils allaient être bloqués, et ils ont bel et bien été bloqués, Guillaume.
Ouais, bah l'histoire se répète un petit peu, hein, puisqu'après avoir demandé les clés de VKontakte, ce qui a amené le créateur de VKontakte, Pavel Durov, à créer Telegram, ben le Kremlin demande très logiquement le blocage de Telegram. Mais apparemment, c'est pas si facile, parce que si les IP des serveurs de Telegram ont été bloqués assez rapidement, ben les utilisateurs se sont rapidement mis à utiliser des VPN et pour relayer le trafic quoi. Et du coup, pour le relayer ce trafic, ils ont utilisé des serveurs dans le cloud de Google ou d'Amazon. Et bah du coup, qu'est-ce qu'il a fait Moscou? Il a demandé le blocage de millions d'adresses de Google et d'Amazon. Alors, il y a 18 sous-réseaux qui seraient bloqués, et il y a même des magasins d'applications qui se sont vus demander le retrait de Telegram de leur catalogue. Donc du coup, c'est un beau bazar, et c'est pas fini, puisque le prochain sur la liste pourrait être Facebook, puisqu'il est en train de subir des contrôles pour se mettre en conformité avec les exigences russes, et fin 2018, bah, si c'est pas le cas, lui aussi pourrait être bloqué, donc voilà.
Ouais, ça promet, hein. C'est une sacrée ère de l'information au niveau des États qui est assez impressionnante. On enchaîne avec la rubrique en bref, qu'on va essayer de traiter vraiment en bref, hein, sinon ça va être trop long notre histoire. Un petit follow-up déjà pour commencer cette rubrique en bref. On parlait du droit à l'oubli, on en reparle, Guillaume?
Oui, bah, alors c'était la fois dernière de ces follow-up. La fois dernière, j'ai parlé de ce cas entre Google et deux gars anglais qui lui avaient demandé de virer leurs antécédents criminels sur Internet, et Google avait pas voulu parce que bah c'était paru dans des journaux, et donc c'était, comme ils faisaient du journalisme, bah, c'était anti-journalistique. Donc c'était allé devant la Haute Cour de justice. Et le juge, ben, il n'a pas été très très impressionné. Donc le résultat, c'est que Google s'est pris un vent. En fait, le juge a dit clairement que Google ne faisait pas de journalisme. Et il a même été assez presque insultant, puisqu'il a dit que Google avait plutôt un rôle parasitique qu'un rôle journalistique. Donc c'était pas très très sympa. Et bon, voilà, c'est pas pour l'instant. Ça en reste là. Google, donc pour l'instant, a perdu.
De fait, je me sens très à l'aise avec cette décision, moi, perso. Enfin, je sais pas si...
Bah, c'est mieux, oui, c'est mieux.
Oui, mais c'est rare quand on peut être autant d'accord avec une décision de justice, notamment à l'encontre d'un Google. C'est vrai que c'est assez présomptueux de se positionner comme journaliste de la part de Google. On peut leur louer plein d'avantages et d'éléments positifs, mais enfin, le journalisme n'est peut-être pas l'élément le plus fort qu'ils puissent mettre en avant. Et évidemment, on parle pas de Google Actualité comme étant une fonction de journalisme, hein, pour moi. Je dis qu'il faut aller vite, mais je j'étoffe trop les news. J'essaye d'enchaîner les messageries de type SMS, messagerie instantanée sur Android. C'est une longue histoire d'amour ou pas. Je me rappelle de Cédric Tamboise à l'époque, qui déjà soulignait à quel point ça l'agaçait, les changements et les errements d'Android pour les messageries. Ça continue de changer, Guillaume.
Ouais, je sais pas si tu as beaucoup utilisé Allo de Google.
Non. Non, je t'avoue que je l'ai installé une fois sur iOS, j'ai testé et je l'ai désinstallé. Ça, voilà, je voyais pas l'intérêt.
T'es, en fait, t'es pas le seul. Google dit pudiquement qu'il le met en pause, qui met la pause de son travail sur Halo.
C'est comme, tu sais, un couple, tu sais, les jeunes couples.
On va faire une pause. C'est pas toi, c'est moi. Mais bon, donc grosso modo, bon, Halo, c'est mort, quoi. Hein, et Google va se concentrer sur le RCS. Alors, le RCS, j'en avais parlé il y a un petit peu longtemps. C'est RCS, ça veut dire Rich Communication Service. Et en fait, c'est une sorte d'extension du SMS, tout simplement. Donc c'est un SMS
on
qui va
déjà
ressembler
parlé,
beaucoup à ce que fait WhatsApp, hein, pour être très large, sauf que c'est interopérable. Voilà, c'est un format interopérable et donc c'est ça le gros avantage, c'est que ben toutes les applications qui supportent RCS peuvent communiquer entre elles, alors qu'évidemment ben, vous pouvez pas avec WhatsApp communiquer avec quelqu'un de chez Telegram, ce qui est très 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 chiant. Donc voilà, le RCS, ce serait très cool que ça décolle. Google parie dessus et donc c'est très bien. On va voir ce que ça donne.
J'ai entendu dans le rendez-vous tech de Patrick Béja le fait que j'avais pas relevé, le RCS c'était pas un protocole qui était chiffré, est-ce que c'est vrai ?
Non, il est pas chiffré effectivement.
Et donc ça risque d'être un problème effectivement à l'adoption. À propos des pauses qui sont installées, et là c'est on parle même pas de pause, c'est on met fin à un projet. On avait parlé de Vaughn qui était, alors j'ai toujours du mal à le prononcer, déjà que l'anglais pour moi la prononciation est pas toujours mirifique, mais Vaughn qui était ce projet de lunettes à réalité augmentée d'Intel dont on avait parlé il y a quelques épisodes de ça, Guillaume.
Ouais, c'était un projet de lunettes de réalité augmentée qui était minimal, c'était très light, c'était un laser qui t'envoyait des informations directement sur la rétine, et c'était intéressant parce que les lunettes qui permettaient de faire ça étaient vraiment passe-partout, au lieu d'être des trucs un petit peu, enfin, difficiles à assumer en société. Bon, ça marchait pas trop mal, mais on se demandait un petit peu s'ils allaient trouver des partenaires commerciaux. Le fait est que ça ira pas jusque là, puisque de toute façon, dans la série Intel fait n'importe quoi, Intel ferme son groupe device, et donc il arrête les smartwatches, il arrête les lunettes connectées, il arrête tout. Bon, voilà, on sait même pas trop pourquoi il a travailler dessus. Bon, c'est dommage. Après, est-ce que ça aurait marché ou pas ? Aucune idée.
Ce qui marche, en tout cas, c'est le hack de la Switch qui a été présenté il y a pas très longtemps, qui est donc quelque chose qui vous permet, grosso modo, de lancer à peu près ce que vous voulez, en l'occurrence un Linux sur votre Switch. Ce qui est exploité, c'est une faille, et il y a une particularité sur cette faille, c'est qu'elle est installée sur le plan matériel et peut pas être corrigée. Elle est installée sur la puce, hein, si je dis pas de bêtises, et elle ne peut pas être corrigée par exemple un déploiement de firmware. Ce qui veut dire que Nintendo ne peut rien tant qu'il distribue la Switch de cette manière-là. Ce sera autant de Switch qui seront vulnérables, c'est ça?
Ouais, exactement. En fait, c'est le mode debug du Tegra X1, le recovery mode, comme on l'appelle, qui possède un petit bug qui permet de bypasser la sécurité et de faire exécuter ce qu'on veut. Et en fait, cette petite ROM, elle est pas patchable parce que il y a un petit fusible qui à la sortie de l'usine qui est un fusible de protection qui est grillé et donc on peut pas réécrire dessus, ce qui fait que la vulnérabilité ne peut pas être patchée. Par contre, il faut forcer le système en mode recovery USB. Donc ça veut dire qu'il faut un petit dispositif métallique, hein, qu'on peut mettre.
Un fil de fer.
Bah c'est presque ça, ouais, c'est presque ça en fait. C'est un petit truc qui se met, tu sais, sur la petite prise des comment ça s'appelle déjà, les Joy-Con.
Les petites cartes. Ah, des Joy-Con.
Des Joy-Con. Ouais, voilà, c'est plus truc. Il y a une petite prise pour le Joy-Con en bas. Et en fait, il faut faire un petit contact. Donc bon, en fait, c'est un tout petit truc que tu colles dans ton machin là, et voilà, ça permet de passer en recovery mode. Ensuite, tu envoies tu exploites la vulnérabilité, et après, tu exécutes strictement ce que tu veux.
Et donc, par extension, tu lances un système d'exploitation qui est sur ta carte SD, c'est ça ?
Tu peux lancer un système d'exploitation qui est sur ta carte SD, et tu pourras enfin peut-être sauvegarder tes sauvegardes de partie ailleurs que sur la machine,
oui.
Ce qui a été réclamé,
oui,
à corps et à cri par la communauté.
Oui.
Et bon, évidemment, tu pourras faire sans doute plein d'autres choses, mais cela ne nous regarde pas.
Ouais, et quelque part, tu sais, ce genre de choses, je trouve que c'est aussi bénéfique. Justement, tu parles de cette fonctionnalité de sauvegarde. Je trouve que c'est motivant sans doute pour une marque comme Nintendo de proposer des fonctionnalités qui peuvent donner moins d'avantages à du piratage ou en tout cas des usages détournés de la console. Donc c'est très bien de voir ça et bravo à ceux qui y sont arrivés. La fusion iOS macOS, c'est quelque chose dont on parle depuis quelques temps déjà, comme une espèce de vieille rumeur. D'une part sur le plan matériel, puisqu'on commence à parler de puces qui seraient hautes qu'Intel pour faire tourner les Mac par exemple, mais on parle aussi du système d'exploitation. Alors il y a des projets qui viseraient à nous montrer que les applications développées pour iOS et macOS partageraient du code de manière beaucoup plus étroite, notamment c'est des choses qui seraient annoncées à la WWDC, la conférence pour les développeurs en juin, et qui pourraient permettre de rapprocher un peu cet aspect développement des apps pour les écosystèmes Apple. Mais pour autant, Tim Cook a pris la parole et nous a bien confirmé que c'était quand même pas à l'ordre du jour, hein.
Bah écoute, non, mais alors attention, il y a un truc qu'il a dit, il y a un truc qu'il a pas dit. Il a dit que...
Qui dit le monsieur ?
Le monsieur, il dit que la fusion macOS-iOS, c'est pas pour tout de suite, et il pense pas que c'est ce que l'utilisateur recherche, il pense que les deux plateformes sont spécifiques et que leur force vient de leur spécificité, et que donc il est hors de question de faire des compromis pour les fusionner, bon, ce qui peut s'entendre. Il n'a pas dit que les processeurs Intel seraient à jamais dans les MacBook non plus.
Oui, effectivement.
Attention,
raison,
ça donc... Il est quand même possible que dans les années à venir, dans un futur proche, il y ait une transition vers des puces maison, tout en conservant macOS et iOS de manière bien séparée. Ben, c'est possible.
Ouais, je crois qu'effectivement, t'as raison, je représentais des rapprochements sur plein de volets. Ce dont il prend, sur quoi il s'exprime, c'est uniquement les OS. Donc, pas justement les apps, hein, puisqu'on pourrait imaginer des apps qui seraient communes entre guillemets à iOS et macOS dans une certaine mesure. On parle pas du matériel parce qu'il y a nécessairement des rapprochements, mais le système d'exploitation, c'est pas forcément ce qu'on souhaiterait, hein. Apple sait mieux que nous ce qu'on voudrait. Dans le fond du sujet, j'avoue que en l'état actuel des choses, je comprends pas comment on pourrait utiliser vraiment un macOS pleinement sur un iPad par exemple, ou évidemment un iOS sur macOS. Mais donc je comprends un petit peu son point de vue. Pour autant, ouais, si on voulait vraiment le faire, je pense que ce serait possible. Je crois qu'il y a aussi un aspect philosophie et blocage d'entreprise peut-être.
Ça évidemment. S'appelle Windows 10. Hein, mais...
Oui, ça fonctionne très bien hein, d'ailleurs. Ça promet pas les mêmes choses. Mais bon, bref, on va pas tergiverser. Il y a un sujet sur lequel j'aimerais ta pédagogie, Guillaume, parce que je savais d'entrée de jeu qu'en lisant plein d'articles, je ne me ferais pas un avis éclairé sur le sujet, et je savais que tu le ferais très 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 bien à la place de toutes ces news. C'est l'annonce de Microsoft qui, ni plus ni moins, propose un nouveau système d'exploitation, notamment pour les objets connectés, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Azure Sphere, et ça va faire date dans l'histoire de Microsoft. C'est un système d'exploitation basé sur Linux.
Ouais, bah écoute, oui, mais alors Sphere, c'est pas juste un système d'exploitation, c'est même trois parties qui sont très très bien définies. D'une part, il y a les microprocesseurs Azure Sphere, donc Azure Sphere, ce seront aussi des systèmes sur puce qui seront créés par Microsoft et qui intégreront plein de technologies, et en particulier des technologies de sécurité. Donc il y a une plateforme matérielle définie. Il y a aussi un OS, t'as raison, donc effectivement, Azure Sphere, ce sera aussi un système d'exploitation qui est basé sur le noyau Linux. Ce sera un noyau Linux modifié, donc en fait, c'est un peu comme un Android, c'est un petit peu dans le style d'Android, si tu veux. C'est là encore, c'est pour le rendre plus sécure, c'est-à-dire, voilà, il y a évidemment, c'est pour l'interfacer avec le microprocesseur Sphere, et c'est aussi pour l'interfacer avec tous les services cloud Azure, parce que Sphere, c'est aussi une partie cloud, avec laquelle les puces pourront converser. Donc tout ça, c'est une pile complète qui pourra être programmée en Visual Studio avec les outils Microsoft standard, et qui est donc une plateforme complètement polyvalente pour les objets connectés. Alors, vraiment, tout et n'importe quoi, hein, de la machine à laver jusqu'au toaster, la cafetière, tout ce que vous voulez. Bon, effectivement, Microsoft fait un système d'exploitation basé sur le noyau Linux. Bah écoute, pourquoi pas, hein, Google l'a fait. Bon, c'est pas un truc qui est aussi hallucinant que ça, je suppose.
Et ça montre une fois de plus à quel point ils sont dans une philosophie de proposer du service sur voilà les bonnes solutions technologiques qui vont bien et c'est très bien comme ça. Quelques chiffres clés d'abord pour les réseaux sociaux, notamment pour le mois d'avril 2018, puisqu'évidemment compte tenu de l'actualité chaude sur l'univers des réseaux sociaux, les professionnels de la communication et de la tech attendaient avec impatience certains rapports et notamment il y a et parce que aussi il y avait eu une étude de l'IFOP qui disait que qui arrivait aux conclusions que 25% des Français envisageaient de supprimer prochainement leur compte Facebook. Donc ça laissait quand même entreapercevoir des modifications. Eh ben non, rien ne change. Les réseaux sociaux se portent de manière générale très très bien. En avril, plus de 4 milliards d'internautes, soit 54% de la population, dont 3,3 milliards d'inscrits sur les réseaux sociaux. Plus 13% par rapport à l'an dernier. Les plateformes les plus populaires ne changent pas vraiment. On a toujours Facebook, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, Instagram, Tumblr qui sont dans le haut du classement et le bas du classement ne bouge pas tant que ça non plus. Avec Facebook qui lui aussi continue de progresser, c'est peut-être là l'enseignement le plus fort, avec plus 14% sur l'année, en notant que 89% des membres accèdent au réseau social via leur smartphone. Le seul point qui continue en revanche à baisser, c'est l'utilisation de Facebook pour les adolescents. Sur 3 mois, le réseau social a perdu 6 millions d'utilisateurs chez les 13-17 ans, donc pas non plus des chiffres gargantuesques à l'échelle internationale, mais qui montrent quand même une baisse. Évidemment, en conclusion, toujours Instagram au top, Twitter qui est toujours à la peine et le mobile qui continue de progresser. En gros, rien ne change, contrairement à ce qu'on aurait pu peut-être voir arriver. Des chiffres clés aussi sur les smartphones, Guillaume ?
Oui, c'est Que Choisir, je crois, qui a fait un petit sondage sur nous et notre smartphone. Et donc, on y apprend des trucs assez rigolos. Donc, par exemple, les smartphones sont de plus en plus utilisés par les 65 ans et plus. Et donc, c'est marrant. Le prix d'achat moyen en France d'un smartphone est 326 euros. Alors, c'est attention parce que c'est très variable en fonction des modèles, puisqu'on apprend par exemple que le prix moyen d'un téléphone Apple c'est 529 euros, alors que celui d'un Samsung est de 344, et que celui d'un Sony de 286, et celui d'un Huawei de 212 seulement. Donc en fait, 326 euros, ça dérive un petit peu vers le haut à cause de Samsung et surtout d'Apple. D'ailleurs, Huawei est en forte progression en France, hein, puisque sa part de marché a triplé en 2 ans. Il y a beaucoup de smartphones qui ne disposent pas de batterie amovible et apparemment c'est un problème pour plus des 2/3 des sondés, ce qui est plutôt un mauvais signe je trouve. La 90% des smartphones sont achetés neufs, apparemment l'usage quotidien serait de 1h16, ce qui est très peu je trouve, je suis assez étonné par cette
Je m'attendais à beaucoup plus.
Je trouve aussi. 67% des usages de l'utilisation du smartphone se fait sur les messages, 57% sur les emails, et la moitié seulement du temps au téléphone. Et là encore, c'est assez étonnant. J'aurais pensé que le téléphone soit encore bien plus bas et Internet beaucoup plus haut. Mais comme quoi, Internet ne représente que 47% du temps passé, d'après les Que Choisir. Et chaque semaine, donc, on consulte la météo, les agendas, les GPS, la messagerie instantanée, etc., etc. C'est assez intéressant de voir, que globalement, les gens sont plutôt contents de leur smartphone, ils pensent que c'est un outil formidable, à 92%, et ils sont très contents de LG, HTC, Motorola, Huawei, Apple et Samsung, mais ils sont pas très contents de Wiko, Nokia, Microsoft et Sony. Bon, que veux-tu ? Le principal désagrément du smartphone, c'est que la batterie se décharge trop rapidement, à 44%, et les mises à jour trop fréquentes, à 23%, et je suis bien d'accord avec ça, d'ailleurs.
Là, ce qui m'étonne, c'est cette durée moyenne d'usage du smartphone. Je suis effectivement très étonné. Et en même temps, je pense que ça rentre en ligne de compte, les mamans, les grand-tantes, les grands-papis, qui ont un smartphone, qui échangent des SMS, mais qui l'utilisent pas tant que ça, ils doivent faire baisser la moyenne, effectivement. On parle de smartphone juste pour dire que le OnePlus 6, messieurs dames, sera présenté le 16 mai. C'est un smartphone toujours remarquable. Enfin, en tout cas, c'est toujours une marque qui propose des produits assez remarquables. Donc, effectivement, le numéro 6 a été pas mal teasé et sera évidemment très attendu. Après Razer, Xiaomi, j'essaie de bien le prononcer, ZTE lance un téléphone de gamer.
Alors moi c'est une tendance que je comprends pas très bien, mais c'est vrai que ça a l'air d'être une tendance puisque Razer a lancé son téléphone, Xiaomi aussi, enfin en tout cas via sa marque Black Shark, et apparemment ZTE aussi via sa marque Nubia puisqu'il a lancé le Red Magic. Alors moi ce qui me fait marrer c'est que quand tu regardes le téléphone en fait c'est un Snapdragon 835, bon d'accord il y a beaucoup de gigas de RAM, 8 gigas de RAM ça fait quand même beaucoup, c'est un truc de 6 pouces et il a un mode gaming, mais bon globalement je sais pas exactement à quoi ça va correspondre quoi. Par contre ce qui est assez marrant c'est que c'est les téléphones qui vont avoir des, outre beaucoup de bling bling hein, et des écrans sans verre, je sais pas trop à quoi ça va servir, ils vont quand même avoir
c'est pas
des...
intéressant ça.
Les écrans 120 Hz?
Bah écoute, enfin, si c'est bien ce que j'ai en tête, j'ai l'iPad 10,5 pouces avec un rafraîchissement de 120 Hz. Je t'assure, bon, c'est peut-être sur un grand écran, hein, je t'assure que je vois très nettement la différence quand je repasse c'est sur un vrai. iPad qui n'est pas. Non, vraiment, en termes de réactivité par rapport au mouvement des pages, enfin d'un écran à l'autre, et notamment de ce qui se passe avec le pencil, là, le stylo, je t'assure que je vois la différence.
Bah ça, j'aurais jamais cru. Tu vois, entre 60 et 120, j'aurais jamais cru que ce soit.
Alors si je dis pas de bêtises, hein, si le 10,5 est bien à 120 Hz, mais je t'assure, et c'est assez perceptible dès que quelqu'un prête attention un petit peu aux émissions. Alors de là à dire que les 60 Hz sont inutilisables, faut pas déconner, mais il y a une différence.
Bon bah écoute, my bad, je suis étonné, mais non, mais c'est assez cool. Moi ce que je vois aussi, c'est que bah, c'est des téléphones qui vont enfin avoir des systèmes de refroidissement dignes de ce nom. Alors forcément, ils seront peut-être un petit peu plus gros et plus lourds et plus épais, mais au moins... le système de refroidissement permettra au processeur de monter plus haut en fréquence pendant plus longtemps sans s'autodétruire. Et vu que j'ai eu un téléphone qui s'est autodétruit comme ça, je ne peux qu'approuver. Donc pourquoi pas, écoute, c'est assez rigolo cette histoire de portable gaming, ça devient une petite tendance en soi.
Ça t'éviterait de revivre des mauvais souvenirs. Il y a le gouvernement là qui a bossé sur un certain nombre de propositions en lien avec le recyclage notamment et notre utilisation des produits et la manière dont on consomme les produits, que je trouve personnellement plutôt cool à voir dans les détails comment ça va être amené dans notre quotidien. Mais je trouve que la démarche est plutôt intéressante. Je suis même assez impatient. Je trouve même que pour les sujets qui sont présentés, il y a des choses qui pourraient aller beaucoup plus vite. Mais bon, en tout cas, on va se féliciter de la démarche, je trouve ça très cool. Et il est question d'une étiquette de réparabilité sur les produits. Donc on a déjà hein, les classes énergétiques sur, par exemple, un lave-vaisselle. Quand vous achetez, vous avez la classe énergétique qui va de A++ à D avec les consommations, etc. Et ben l'idée, ce serait d'arriver à donner une note de réparabilité sur les produits pour avoir conscience de la facilité de réparation de ces produits. Sur la faisabilité, je suis pas très inquiet parce que quand je vois qu'il y a des sociétés comme iFixit qui donnent des notes quant à la réparation des produits, je pense que c'est tout à fait possible d'arriver à trouver des protocoles d'évaluation. Je sais pas s'ils seront fiables, mais qui permettent de déterminer de la réparabilité d'un produit. Là où je suis plus circonspect, c'est l'impact que ça pourra avoir pour les consommateurs. Je suis toujours un petit peu réservé sur ce genre de choses. Est-ce que tu as suivi cette annonce et qu'est-ce que tu en penses en deux mots, Guillaume?
Bah, écoute, moi je trouve ça toujours très bien. Hein, tu sais que l'économie circulaire, c'est un truc qui me plaît bien. Et puis la réparabilité, moi j'aime bien bidouiller, réparer les trucs, donc je suis à fond pour. Hein. J'espère que ça va être suivi. Écoute, apparemment, il y a beaucoup de travail, hein, puisque tu sais qu'il y a une enquête de la DGCCRF, tu sais, la répression des fraudes, ouais, qui a réalisé une enquête en 2016 dans 400 magasins, et apparemment dans la moitié des cas, il y a des manquements en matière d'information sur les garanties légales de conformité et la disponibilité des pièces détachées. Donc, si tu veux, tout ça, c'est un chantier en soi, quoi. Pour l'instant, en ce moment, il y a rien du tout.
Évidemment, on part de loin. Spotify qui propose aussi quelque chose de nouveau pour sa version gratuite, donc celle où on paye pas l'abonnement. Ça va être un petit peu plus utilisable parce qu'aujourd'hui la version gratuite nous amène à utiliser de manière uniquement en random, en aléatoire des playlists. Par contre, on a accès aujourd'hui à tout le catalogue. Aujourd'hui, il y aura plus cette limitation de la lecture aléatoire. Il y aura toujours des pubs, mais on accédera de manière beaucoup plus, on choisira beaucoup plus facilement le déroulement des pistes. Mais par contre, on aura un choix limité sur le nombre de playlists. Je trouve ça un peu dommage que la version gratuite de Spotify ne mette en avant qu'un contenu qui soit purement sélectionné par la plateforme. Ça met de côté pas mal d'artistes et ça va faire, à mon avis, des choux gras des fonctionnements avec l'industrie musicale. En termes de découverte et d'ouverture de la culture pour la musique, je trouve ça un peu dommage, mais nul doute que ça devrait satisfaire un certain nombre d'utilisateurs. Allez, sans autre forme de procès, on va passer au bonus. Avec quoi es-tu venu dans ta besace, Guillaume, pour les bonus de cet épisode 84?
Ben, je suis venu avec Mindhunters c'est une série Netflix qui était en partie produite par David Fincher, mais en fait qui est produite par plein de gens aussi, et qui retrace donc les tout débuts du profilage au FBI. Ça se passe en 1977, et ça suit deux flics, en gros un jeune et un vieux, hein, qui s'intéresse à la psychologie des meurtriers. Et le plus jeune, donc, veut aller plus loin, et il décide d'aller interviewer ce qu'on appelle pas encore les tueurs en série. et c'est directement dans leur prison. Alors c'est pas nouveau, hein, c'est sorti en octobre dernier, mais moi je viens juste de finir la saison 1, et d'ailleurs il y a une saison 2 qui est en chemin, et j'ai trouvé ça bien foutu. Voilà, l'époque est très bien retranscrite, et il n'y a pas de fin de service face aux Stranger Things, tu vois, pour le coup. Ouais. Et c'est intéressant, quoi, les persos sont bien, je trouve que c'est une bonne série policière, donc si vous êtes, ouais, si ça vous intéresse, vous pouvez y aller.
Et dedans, il y a l'actrice qui jouait dans Fringe, si je dis pas de bêtises.
Oui, absolument. Elle joue la psychologue universitaire, oui.
J'adorais cette actrice et je déplorais le fait qu'on la voit pas plus souvent. Merci beaucoup. Moi, je voulais juste toucher un mot des PWA, des Progressive Web Apps, puisqu'on en a parlé à plusieurs reprises. Et en fait, je suis tombé sur Safari, là, sur iOS, sur plusieurs plateformes en Progressive Web Apps, notamment Twitter, mais aussi Instagram, donc deux réseaux sociaux sur lesquels on sait que les mouvements de fenêtres, d'interactions, etc. sont souvent assez différents entre une application native et une interface web mobile. J'ai été complètement bluffé. Je trouve que l'expérience est totalement convaincante. Il y a 2-3 trucs qui sont un petit peu bizarres et qui permettent de voir la différence, mais sinon, en termes de performance et en termes de rendu, on est dans quelque chose d'incroyable. 10 ans après Steve Jobs, qui disait qu'il fallait pas des apps natives sur iPhone parce qu'il y avait les web apps qui faisaient très bien le boulot, on est arrivé enfin à quelque chose de satisfaisant. On y était, à mon sens, pas tout à fait avant. Je fais peut-être celui qui découvre les progressives web apps, et elles étaient peut-être bien dispo sur plein de plateformes avant, mais pour les avoir utilisées, j'ai été complètement bluffé. T'en as déjà utilisé, toi, Guillaume? T'en as déjà expérimenté des progressive web apps?
Pas vraiment, non. J'ai jamais vraiment cherché. Je suis très app, moi, bizarrement. Mais...
Ouais, moi aussi à la base, et du coup l'autre jour je suis tombé dessus un peu par hasard, c'est-à-dire le site mobile qui est très évolué et qui répond formidablement bien. Je me suis dit, en fait je suis sur l'app native, j'ai simplement 2-3 éléments qui me rappellent que je suis dans un navigateur, donc bluffant. Et l'autre bonus, c'est un article sur lequel je suis tombé, il y a plusieurs articles, hein, qui relaient ça, mais juste une bizarrerie de l'édition. Le titre de l'article, c'est quand Kobo vend chez Fnac des e-books plus ou moins autorisés. Vous savez que j'ai un amour particulier pour notamment les livres électroniques, et il semblerait qu'il y ait un certain nombre de réglementations de périmètres de droits d'auteur qui soient différents dans certains pays par rapport à notamment la France, et il y a notamment une boîte qui s'appelle Kabook, qui est assez confidentielle, qui a l'air d'être basée au Canada, qui se fait un malin plaisir de proposer des œuvres littéraires qui sont toujours encadrées par un certain droit en France pour des sommes qui défient toute concurrence, puisqu'on est à l'ordre de, on est aux alentours de 1 ou 2 euros en général, du coup ils diffusent ça sur des plateformes, et comme Kobo est en, plutôt comme la Fnac est en partenariat avec la plateforme Kobo, qui est désormais japonaise, il y a tout ce contexte de mondialisation qui fait que la Fnac propose via les Kobo des e-books concurrents aux autres e-books qui sont encadrés par le domaine légal, qui proposent également eux aussi, mais pour des tarifs tout à fait différents. Donc en fait, à part la couverture, il y a rien qui change. Et par exemple, il y a L'Or, qui est la merveille par Blaise Sandrard.
Par Maison du Café, non?
Tout à fait, aussi, mais aussi par Blaise Sandrard, 1 € versus 5,99 € sur la plateforme habituelle. Les Cavaliers, qui est un livre de Joseph Kessel, qui est à 10 balles en format numérique et qui est à seulement 2 € sur la même plateforme, mais parce que distribué par Kabook. Ça fait un peu bizarre. Je pense qu'il sera grand temps de repenser un petit peu la manière dont sont gérés ces droits. Alors c'est un sujet super vaste, parce que ça touche évidemment à toutes les œuvres culturelles à l'international, mais la manière dont c'est géré aujourd'hui présente quelques bizarreries. Allez jeter un coup d'œil pour voir s'il n'y a pas des bouquins qui pourraient vous intéresser, sur lesquels vous devriez vous jeter, parce que je ne suis pas sûr que ça dure encore longtemps. Voilà, ça nous permet de conclure cet épisode 84 de Tech Café. On ne peut pas quitter cet épisode sans rappeler que l'émission est proposée en financement participatif avec une plateforme qui s'appelle Patreon, et qui propose... pour ceux qui le souhaitent, donc c'est pas du tout obligatoire, l'émission reste accessible à tout le monde, mais pour ceux qui le souhaitent, de participer à la hauteur de ce que vous voulez. Et donc ça peut commencer avec des sommes assez ridicules, de l'ordre de 1 $ à peu près par émission, et vous pouvez même plafonner le nombre de contributions que vous souhaitez faire par mois, donc une liberté totale, c'est sans engagement. Et évidemment, c'est un élément très 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 concret pour nous montrer à quel point ce qu'on fait dans Tech Café, à quel point les news qu'on relaie et la manière dont on les traite et les critiques vous apportent quelque chose. Donc si jamais vous êtes habitué à écouter Tech Café, si vous avez le sentiment que ça vous apporte quelque chose dans votre quotidien, ça vaut peut-être le coup d'aller jeter un petit coup d'œil à la plateforme. C'est une rémunération qui nous arrive très directement à moi et à Guillaume Poggiaspala, que je remercie encore pour son travail éditorial, notamment sur toute cette émission, pour avoir préparé toutes ces news. C'est lui qui en est l'unique responsable. Flagellez-le si jamais le programme ne vous a pas plu. Et puis surtout, allez jeter un coup d'œil aux notes de l'émission sur techcafé.fr pour revoir, comme vous l'a dit en intro, les titres qui ne seront pas sans vous évoquer ce fameux roman 1984 qui gagne à être lu. Il faut absolument que je le continue. Merci beaucoup, Guillaume. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut échanger directement avec toi?
Je sais pas trop, mais par contre, j'espère qu'on me retrouvera pas sur un compte zombiematch.com parce que ça pourrait poser des problèmes à la maison quand même.
Ça pourrait être douteux. Bon, on va pouvoir interagir avec toi sur Telegram quand même en attendant, non?
Éventuellement.
Sur le channel Telegram de Tech Café, dont vous avez là aussi le lien dans les notes de l'émission. Merci beaucoup à vous qui nous suivez semaine après semaine et vous qui interagissez avec nous au travers des commentaires ou à travers ce groupe Telegram qui atteindra bientôt, je pense et je l'espère, les 200 membres. Merci beaucoup pour tous vos soutiens. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à tous.
Ciao, ciao. Ouais, ça va.
Cool.
Je vais chercher une boîte de mouchoirs parce que...
T'es enrhumé.
Non, pas du tout, pas du tout.
J'aime pas trop cette réponse.
C'est vrai que du coup, j'aurais préféré qu'ils disent oui.
Ouais, c'est pas non plus pour ça. Je voudrais
construire un pont. Oh mon dieu.
Ah putain, mais ça part fort, hein. Là, je te jure. tu sais pourquoi je prends une boîte de mouchoirs?
Bah, on aimerait savoir du coup. Ouais.
Oui,
enfin,
parce,
je sais pas.
Que, parce que là, du coup, s'il y a du fantasme. Non, non, c'est parce que je. En fait, c'est pour surélever le micro, parce que comme ça, il est plus.
Ouais, c'est vachement moins. Ça fait vachement moins rêver comme explication.
N'est-ce pas, hein? Je sais. Mais c'est ce que tu veux faire.